trouvé les moyens à rétablir, à revenir au bon lieu de l'écriture, ou quand même, il faut qu'on traite le continu, la distribution de segments qu'on contrôle, hein, on intègre, le non-linéaire par le linéaire, une fonction impossible à traiter en dégringolant chaque fois le degré de la fonction pour qu'enfin on tombe sur du dérivable. Chaque fois, on essaye, les scientifiques essayent de reviennent au simple. Bon. Alors, évidemment, réduire du complexe à du simple, c'est idiot, ça s'appelle du réductionnisme. Comment on peut faire? C'est on peut réduire un système complexe à des sous-ensembles complexes, à condition qu'effectivement, on garde le fait qu'ils sont complexes et pas simplement compliqués. Après, on les articule comme on veut, on peut prendre la théorie de Cournot, la rencontre de deux séries indépendantes, c'est la définition du hasard. Donc, vous pouvez avoir deux systèmes complexes qui vont évoluer et qui vont se rencontrer de façon totalement indépendante, et ça va créer ce fameux aléatoire, ce choc exogène. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas réduire ce complexe, même ce complexe de sous-ensemble, il ne faut pas le réduire à un complexe, à un compliqué. Alors, les perturbations de l'environnement qui affectent un système et en menacent la survie créent de la non-linéarité, des catastrophes, des transitions, machin, etc. Mais je dirais que l'approche qui nous intéresse, à mon avis, et qui prend du côté du vivant, du côté de l'activité, c'est tout ce qui endogénéise par la connaissance et l'apprentissage et l'expérimentation, et qui ne traite pas simplement de variables exogènes. Parce que effectivement, les variables exogènes, vous pouvez le constater bien, qu'elles interfèrent à aucun moment dans le système, elles ne sont pas intégrées. Alors si je reprends ce que disait ce matin Stigler sur au fond qu'est-ce qui se passe dans l'opération de connaissance et d'appropriation, de transindividualisation, je dirais que c'est précisément qu'on arrive à endogénéiser des choses qui étaient complètement exogènes, et qu'elles deviennent partie du fonctionnement, et qu'on s'les approprie, et qu'on arrive à les, et qu'elles sont transformées. C'est-à-dire que la relation vous transforme identitairement et transforme l'objet initial. Alors, dans cette histoire, si on cherche aussi à modéliser le complexe, ça veut dire que les statistiques probabilistes ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire que je pense que notamment, la logique et les maths du flou sont plus intéressantes, tout simplement parce qu'il y a du tiers exclu partout. C'est-à-dire que vous savez que le flou étant affaiblissant le système du principe de contradiction, identité et puis non-contradiction, le principe d'Aristote, la logique, affaiblissant le tertium quid non datur, en disant oui, il y a un tertium quid qui est donné, eh bien, c'est très intéressant de savoir qu'on peut raisonner de façon rigoureuse, flou, mais en levant cette clause très emmerdante, qui est d'ailleurs celle du numérique, à savoir que c'est ou fromage ou dessert, ou 1 ou 0. Le courant passe, le courant passe pas, et il n'y a pas du courant qui passe à moitié. Remarquez que c'est très intéressant, parce que dans le courant qui passe à moitié, c'est ou le court-circuit ou l'électrocution. C'est intéressant, quand même, parce que c'est des situations totalement, j'allais dire, de phase, de crise, etc. Alors, maintenant j'en viens à la valeur économique du complexe. Au fond, j'ai envie de dire, le grand avantage de la révolution numérique, c'est qu'elle permet plus que ça n'était le cas avant, même si avant il y avait déjà ça dans les processus d'abstraction intelligente, de séparer le codifiable du non-codifiable. C'est-à-dire, au fond, ce que j'appelle des immatériels ou intangibles durs, des immatériels de ou mou. Alors, vous voyez que je renvoie le compliment du berger à la bergère, la traditionnelle définition dont se gargarisent d'ailleurs certains économistes en se rangeant du côté de la science dure par rapport à la science molle. La science molle, c'est vraiment n'importe quoi. Un manque de peau, c'est que c'est probablement du côté de la science molle que se trouve un certain nombre de choses extrêmement intéressantes dès qu'on a affaire à du complexe, et pas à faire fabriquer une horloge. Alors, sur le contenu des matériels 2, je vais revenir, et alors, je vais d'abord faire quelque chose qui concerne une définition des intangibles. C'est-à-dire que pour un économiste standard, qu'est-ce que c'est qu'un intangible et un immatériel? C'est ce qui peut être codifié quand l'innovation va être reconnue par le marché. Par exemple, un droit de propriété intellectuelle, ça devient codifiable en un rapport juridique d'usage, d'appropriation, d'exclusivité, de transférabilité, à partir du moment où le marché reconnaît que c'est évidemment très intéressant. pour nous, au sens pour des gens qui pensent un peu à la révolution numérique, c'est un effet de réseau qui devient plus puissant que la productivité de chacun des facteurs endogènes. C'est ce qu'on peut appeler la revanche des externalités. C'est-à-dire que dans un système complexe, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une partie d'implicite que vous ne voyez pas et qui est responsable d'une grande partie de la productivité du système. De la productivité, de sa capacité de changement. Ça veut dire que votre connaissance est limitée. Souvent, elle ne traite pas de la masse manquante. On peut dire qu'il y a au fond trois points de vue, d'un point de vue économique. Dans la norme comptable, c'est la différence entre la valeur d'achat, par exemple, d'un actif. Ça peut être une entreprise, ça peut être une action, ça peut être un brevet. Entre ce qui peut être expliqué par les fondamentaux de base, ce qui figure dans les livres comptables, vous avez les machines, vous avez la somme cumulée des loyers que vous avez à payer, vous avez les stocks de matières premières, vous avez des brevets. Alors des brevets à condition qu'ils rapportent, hein. Pas des brevets qui sont dans le bilan comme un potentiel à valoriser, mais des brevets qui ont rapporté. Par exemple, le CNRS a 12 000 brevets, il en a seulement, sur les 12 000, il en a seulement 800 qui servent à quelque chose, enfin qui font l'objet d'une exploitation commerciale, et sur, je crois, les 800, il y en a à peine une quarantaine qui fournissent 80% des recettes. Hein, voilà. Alors ça, les recettes fournies par des brevets qui ont donné lieu à des royalties, ça, un comptable va dire, il n'y a pas de problème, je les inclus dans les comptes sans en discuter. En revanche, si vous voulez, eh bien, vous avez vu se développer récemment dans la comptabilité et les grandes discussions sur la comptabilité financière actuelle, c'est-à-dire la norme IFRS anglo-saxonne plus les accords de Bâle II, ben c'est comment on compte tout l'économie. Hein, c'est pas seulement ce que le rapport Sen-Stiglitz-Fitoussi, le PIB, mais c'est aussi comment on compte les entreprises, à quoi on va les valoriser. Et les débats qui ont lieu sur ce qu'on appelle le goodwill. Comment se fait-il que le goodwill ait fini par atteindre 200%, 300% de la valeur dans les livres? Ça veut dire que vous trouviez des investisseurs capables d'acheter une entreprise à trois fois la valeur raisonnable de ce qu'elle avait dans les livres, qu'on calcule en général par un taux d'actualisation des profits, plus une vérification très très précise du bilan comptable, en particulier en se méfiant des bilans consolidés, qui agrègent des torchons, des serviettes, des pots de confiture et les moustaches de Salvador Dali, notamment en agrégeant des comptes offshore, des filiales complètement détenues ou partiellement détenues, etc. Donc ça, c'est le problème du goodwill qui s'est développé depuis 25 ans, qui a nourri la financiarisation, qui recommence d'ailleurs aujourd'hui. Parce que si vous voulez, General Motors s'effondre, mais General Motors va remonter. Vous avez des entreprises qui ont dégringolé de 200-400% et qui remontent de 300%. Donc vous vous dites, vous avez le tournis et vous dites, bon, on en est où du point de vue de la valeur? Bon. Pour la finance, c'est au fond une chose très importante, c'est l'écart qu'il y a entre le concept de valeur et le profit observé. Autrement dit, on l'a dit hier, à propos du risque et d'un financier. Un financier, contrairement à ce qu'on pense, et s'il est financier, notamment dans une fondation, ou s'il est dans un département de banque digne de ce nom, et que ce n'est pas un apothicaire comme César Birotteau, en principe, un financier, il est là pour, c'est sa fonction, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est payé très cher, même qu'il encaisse des primes, il est là pour financer des choses que le calcul prudentiel d'un pharmacien de province ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'un pharmacien de province ou quelqu'un qui est très très prudent et qui est tombé dans la marmite de la caisse d'épargne depuis qu'il était tout petit et qui n'en est jamais sorti, il va vous dire effectivement une entreprise, un investissement, et bien je prends les profits effectués depuis la série des 10 dernières années, j'actualise tout ça et blanc, je calcule exactement comme quand vous achetez un immeuble et que vous prenez la valeur locative, vous prenez l'état du bâtiment et vous dites voilà grosso modo c'est 10 ans de loyer, en 10 ans de loyer j'achète le bien, si je l'achète pour 20 ans ça représente 20 ans de loyer, c'est beaucoup trop cher, et si je l'achète pour 5 ans de loyer c'est une occasion, mais il peut y avoir un hic comme un toit par le fer ou des travaux, donc ça peut être sur une zone constructible, etc. Donc les choses comme ça sont au fond vous vous posez la question, et le financier, ce qui l'intéresse, c'est la valeur, c'est pas le profit, contrairement à ce que pensent les gens. C'est-à-dire, c'est la valeur, c'est du profit futur escompté, mais marqué d'une incertitude formidable de réalisation. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est comme le dieu de Kant, les thalers. Hein, si ma grand-mère avait des roues, ce serait une bicyclette. C'est une inférence logique. Si dit Kant, Dieu, ben, c'est comme des 120 thalers, ben, où les 120 thalers sont là, où ils ne sont pas là. C'est comme la preuve de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu ne contient pas l'être. Elle peut contenir la bonté, la perfection. Si vous dites que la perfection contient le fait d'exister, vous êtes comme Saint Bonaventure et vous avez la preuve imparable de l'existence de Dieu. Si vous dites non, je suis désolé, la perfection et la bonté ne comprend pas l'existence, il y a un jugement de réalité, ben vous n'êtes pas convaincu du tout par les preuves de l'existence de Dieu. Alors, au fond, ce qui intéresse le financier, c'est qu'évidemment, le concept de valeur, c'est chaque fois que le concept de valeur excède celui de profit. C'est évidemment ce qui permet à un financier de faire son beurre, c'est-à-dire de sélectionner des activités sur lesquelles personne ne parierait un copec, enfin l'homme de la rue ordinaire, et sur lesquelles lui va parier et qui vont se révéler exactes. Hein, c'est un peu comme la différence entre un tiercé que tout le monde a. Si vous jouez le tiercé sur les favoris, il vous rapporte des clopinettes. Si vous jouez sur des outsiders, il peut vous rapporter quelque chose. Bon, pour le marketeur, le marketing dont il a été beaucoup question en termes assez féroces de la part de Bernard Stiegler tout à l'heure, le marketeur, au fond, hein, celui qui fait le métier de marketing, au fond, la vraie valeur, c'est l'ADN de la marque. Alors, si maintenant, je distingue donc entre intangible 1 et 2, pas 2 et 2, mais 1,
oui, quoi ? 3 valeurs.
J'ai fini. Donc, immatériel 1, c'est un processus d'incorporation des contenus cognitifs et des connaissances dans la production matérielle. Et ça se traduit en général par l'émission de droits de propriété sur des immatériels codifiés. Le brevet, la marque, les droits d'auteur. Immatériel 2, c'est un processus de subordination de la production matérielle à des arrangements institutionnels pour la capture de l'innovation. Elle entraîne en général un formidable trouble de la gouvernance économique par des immatériels implicites, difficiles à quantifier, à contrôler, mais qui jouent un rôle extraordinaire, qui sont l'audience, l'opinion publique, la marque. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'une marque ? Qu'est-ce que c'est que certains ont dit qu'est-ce que c'est que la valeur du Made in France ? Je fais allusion à des travaux de Dominique Taddei, hein, et Benjamin Coria sur qu'est-ce que c'est que le Made in France, quelle valeur il a, quelle est la valeur de la marque France, qu'est-ce que c'est qu'une marque. Vous voyez bien que c'est formidablement difficile à comprendre. Je pense que le tableau qu'a donné Ben Acte tout à l'heure sur le travail créatif et la différence dans les pays du Nord et les pays du Sud, de l'Europe, hein, je ne parle même pas du reste du monde, était très indicatif, c'est-à-dire que plus vous approchez d'économies complexes qui incorporent des externalités sociétales multiples, plus vous allez avoir, au fond, que la marque de ce pays va valoir quelque chose. C'est le phénomène de la qualité. Hein. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie d'un pays ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Qu'est-ce que c'est que la qualité qui marque la fabrication d'une industrie du luxe ? Qu'est-ce que c'est que la qualité d'une construction architecturale ? Tous ces éléments-là, ils vont refléter le degré de coopération sociale, le degré d'incorporation des immatériels. Alors, je laisse ça. Donc, autrement dit, et je termine par ça, la codification numérique a dégagé de sa gangue l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de donner une réponse non programmée, non déjà programmée, à une question non préalablement posée. Et évidemment, au fond, si vous prenez ce que c'est que le travail aujourd'hui, à savoir une coopération de cerveaux reliés en réseau, vous vous apercevez que les immatériels 2, les immatériels mous, sont certainement la partie la plus importante de ce qui se passe. Du coup, ça a des implications organisationnelles auxquelles il faut réfléchir, c'est-à-dire que je dirais que si on ne s'intéresse pas à modéliser les immatériels implicites, la contextualisation, la compréhension, l'action de connaissance, on passe à côté évidemment du vrai terrain, de la condition d'éclosion de la condition de possibilité, j'ai envie de dire, au sens de la, du terrain transcendantal kantien de l'innovation. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire.
Question.
Je crains qu'il n'ait pas assez parlé, parce qu'en fait, tu es arrivé en retard. Nous n'avons pas du tout commencé à la demi. Il a parlé à peine 25 minutes, là.
Non, nous, on est arrivé à 3h10.
Oui, il a parlé à partir de 3h10, et là, sauf erreur de ma part, il est 15h25, donc il a parlé à peu près une demi-heure. Donc, et comme on a une heure et quart par intervenant, y compris les discussions, en fait, pour une fois, on est vraiment même à l'avance.
Pour une fois, j'ai pas parlé 3h, et voilà. Les gens peuvent parler, c'est formidable. Je fais une autocritique qui se transforme en autolouant. De l'usage jésuite de l'autocritique protestante et maoïste. C'était une invitation à ce que moi j'ai conçu cette journée parce que je souhaite profondément que des gens qui réfléchissent sur l'innovation d'un point de vue économique, d'autres qui réfléchissent sur l'innovation à partir de sciences extrêmement importantes maintenant qui concernent la biologie, de gens qui réfléchissent avec des gens dans sciences sociales comme toi depuis des années, vous puissiez nous faire part de vos lumières sur l'attracteur biologique et vivant. Je n'ai pas développé ici, évidemment, l'importance extrême que ceci a pour l'écologie. C'est-à-dire que l'attracteur de l'écologie, c'est bien gentil, mais si on fait de l'écologie en n'ayant pas les bons attracteurs et qu'on se sert de la mécanique et des vieux modèles, on va vers la cata. Ce sera encore pire que d'avoir pas fait d'écologie. Donc c'est ça surtout qui me semblait... Moi, j'ai mes propres marottes qui sont les immatériels, mais qui sont tout à fait consonantes avec ce que raconte Ben Act sur les implicites, sur le non codifié, sur la contextualisation, etc., l'apprentissage. Mais fondamentalement, le cœur du problème, c'est si l'innovation est la propriété émergente d'un système complexe vivant, c'est évidemment le vivant qui m'intéresse. C'est ça qui nous intéresse, nous. Puisque ce qui nous intéresse, c'est de modéliser l'action innovante et vivante d'un tissu industriel en voie de déliquescence avancée, non seulement écologiquement, mais je dirais gâteusement du point de vue de son nombre de connexions synaptiques et neuronales. Donc c'est ça la chose. Donc en fait, moi c'est très bien que je me sois un peu... que je vous laisse maintenant la parole et que vous réagissiez. Et j'invite vivement les étudiants. Pas simplement parce qu'il existe une catégorie de zozos qui s'appelle les hackers, qui ne mesurent pas leur temps, qui contribuent, qui s'organisent, qui promeuvent un modèle social, qui ont fichu un merdier pas possible dans les droits de propriété intellectuelle, puisque nous avons maintenant la moitié de l'initiative de l'État, de même qu'elle fut consacrée au 8e siècle, au 18e siècle, à la question de lutter contre le braconnage, le vol de bois et les terres communes, les communaux, eh bien là aujourd'hui, on a une énorme initiative de l'État qui passe son temps à essayer, de façon totalement d'ailleurs arriérée, de bloquer la diffusion des contenus numériques qui ont complètement levé les obstacles à la transgression de la clôture de la propriété intellectuelle. Et donc qui sont un point important. Alors les hackers, ce qui est intéressant, c'est la conception, le travail, c'est un rapport au temps, C'est un rapport au profit, c'est un rapport au corps, c'est un rapport à l'organisation sociale, à la coopération, etc. Et ce que P.K. Emanen essaye de montrer, il construit au fond le modèle du monastère et le modèle du banquier protestant, qui sont la légitimation du profit protestant, je vous le rappelle, qui est que si nous sommes tous damnés de toute éternité ou pas damnés, nos œuvres ne comptent pas beaucoup, ça libère toute la sphère profane de possibilités du profit. Alors que l'Église catholique en faisait un monopole exclusif, et à partir du moment où vous vouliez gagner de l'argent, il fallait que vous laviez cet argent en filant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je vous garantis que le prélèvement de l'Église catholique, c'est d'ailleurs pour ça que les protestants finissent par se révolter en Europe du Nord, c'est qu'il arrivait quand même à sucer, à pomper 70% ou 80% des choses. Ça a donné quelques cathédrales, des belles œuvres d'art, mais c'est vrai que c'était très, très élevé comme prélèvement. Alors, donc, le profit, d'un côté, ça c'est très important, c'est la motivation individuelle, mais en réalité, derrière le profit, c'est le formidable vecteur d'accumulation, c'est la révolution des monastères, c'est-à-dire la réforme de la règle de Saint-Benoît, on commence à voir se couvrir la véritable fabrique et usine, si vous voulez, de 1200 à 1400, c'est l'Europe qui se couvre de monastères et qui commence à planter les forêts que nous avons toujours actuellement, déterminer les étendues en blavées, déclenche un mouvement de prospérité dont d'ailleurs il a été question hier, on en a parlé. Bref, tout ça c'est des modèles. Et le modèle ad maiorem Dei Gloriam, c'est un modèle qui est extrêmement énorme parce qu'il pèse sur le genre. C'est-à-dire que si vous voulez, quel est le coup de génie ? L'Église se réalise deux coups de génie, contrôler les femmes, le mariage des femmes, comme dirait Lévi-Strauss, c'est-à-dire obliger les gens à la monogamie, ensuite obliger les rois, notamment les rois germains, qui étaient polygames, ce qui était très gênant pour l'héritage, contraindre les femmes au mariage complet, et surtout accaparer la dot des femmes en deuxième ligne, ce qui fait que l'Église, si vous voulez, vous prenez l'Église au VIe siècle, vous prenez l'Église au XVIIIe siècle, elle a accumulé quasiment un tiers, entre un tiers et la moitié du patrimoine français.
Un petit peu. La question, c'est comment penser le contexte.
Non, la question qui est posée, c'est pas celle-là, elle est posée sur l'éthique à cœur. Donc, ce que je veux dire, c'est que le rapport à la communauté, à la société, est constitutif du modèle économique. Et que le hacker, pour P.K. Emanen, introduit dans le rapport au temps de travail, la mesure du temps de travail, la mesure de l'efficacité, les formes de coopération, la division du travail, introduit des données complètement nouvelles. Alors, ceci est possible parce qu'il y a un effet d'externalité de réseau qui redécouvre la vertu. Si vous voulez, vous découvrez dans la division matérielle du travail, vous mettez 45 bons hommes en train de faire quelque chose, vous divisez le travail et vous êtes plus efficace que si vous laissez chacun faire ce qu'il veut. Bon, ça c'est la division matérielle du travail. Mais si vous êtes sur un réseau virtuel, vous vous apercevez que, par exemple, plus vous avez de gens qui sont connectés, plus vous allez bénéficier de l'effet bibliothèque, plus vous avez de chances de trouver une solution, plus les possibilités de chercher la ressource, d'arriver à définir les nouvelles ressources que vous allez mettre en input, ne sont pas données par une vision patrimoniale que vous avez ou vous n'avez pas sur place les choses. Ça introduit une mutation de ce qu'on peut appeler les fondamentaux de l'économique et du choix. C'est ce que Benacht a dit tout à l'heure à propos du choix rationnel. L'homo economicus, c'est les ressources rares. Qu'est-ce qui se passe quand les ressources, notamment dans le domaine de la connaissance, deviennent des profusions ? Et que notre problème, c'est le tri, et c'est pas l'accumulation des ressources rares. Qu'est-ce qui se passe quand la collaboration de milliers de personnes sur un réseau devient une possibilité matérielle alors qu'elle ne l'était pas avant ? Donc c'est ça l'éthique hacker. Et évidemment, ça explique aussi que ce modèle-là est un modèle de ce que Renaud Saint-Sauveur appelle les institutions intermédiaires, c'est-à-dire des machines à produire des valeurs. L'organisation ne produit pas de valeurs. Les institutions produisent des valeurs. Et ces institutions intermédiaires produisent des projets de transformation de la société. Je renvoie au truc de Stigler. Est-ce que ça va comme bouclage pour la maison ?
Entre d'une part le processus d'incorporation des contenus cognitifs et d'autre part le processus de subordination du matériel. Donc, simplement, si vous pouvez faire clairement la différence entre ces deux-là.
Alors, bon, j'essaie de revenir parce que je vais peut-être revenir sur le tableau. Alors, on voit très bien que dans Immatériel 2, par exemple, là, je vais prendre l'exemple du modèle économique de Google. D'habitude, quand vous avez une connaissance du marché, vous pensez que le marché, c'est défini par une offre et une demande, et qu'au fond, il y a un produit, et que ce produit a ou pas un marché, on le vérifie assez rapidement d'ailleurs, et qu'on vend ce produit, que l'on a des coûts, que l'on a des recettes. Voilà, ça c'est, je dirais, la dinette à laquelle continuent de jouer les économistes. Le fait que Google ait chamboulé le modèle, ça se passe comment? Ça se passe par un déplacement. C'est-à-dire que ce que Google vend et ce que Google achète n'est pas ce qui apparaît dans la forme. C'est-à-dire que Google, paradoxalement, est un scandale puisqu'il ne vend pas le service qu'il vous vend. Gmail, gratuit, le moteur de recherche. Au début des moteurs de recherche, il y a eu plein de gens qui étaient, j'allais dire, les crétins de l'ère industrielle, qui pensaient, comme Nikos, qu'ils rendent un service, il faut faire payer le service, car quiconque ne fait pas payer le service ne rentre pas dans ses frais. Donc, c'était Nikos. Donc, vous vouliez chercher un truc, il fallait vous abonner, il fallait payer. Nikos a fait la fin qu'on sait, il a terminé dans les choux. Les modèles de recherche, les moteurs de recherche qui ont gagné, sont des moteurs gratuits. Donc, ils ne vendent pas ce service-là. Et je vous signale que Google Books, si vous prenez le nombre de choses qui rendent, ils rendent des services qui sont offerts gratuitement. Donc, ce n'est pas ça qu'ils vendent, et ce n'est pas là-dessus que repose leur modèle. Sur quoi repose leur modèle? Alors, vous allez me dire, ils vendent les données privées, c'est de la publicité dédiée, et tous les gens, les abrutis critiques de l'école de Francfort, vont dire, ah, c'est encore de la publicité, c'est méchant. Mais c'est pas bien, c'est... Bon, Google caca, ou Google pas. Ou Google monstre, machin. En réalité, ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est que Google exploite le travail de 14 millions ou 15, ou maintenant ça doit être 25 millions de cliqueurs par seconde. C'est-à-dire, Google vous fournit gratuitement le service que vous utilisez, Gmail, tout ça, tous les services, et ce qu'il prend en échange, c'est votre activité cognitive et raisonnable, c'est-à-dire que vous êtes 14 ou entre 14 et 30 millions de personnes dans le monde par seconde à cliquer pour chercher quelque chose. Le fait que vous cherchiez quelque chose est une ressource. Voilà. C'est une ressource formidable. C'est une ressource puisqu'elle exprime, grâce au numérique qui parvient à capter cette information, elle exprime la capacité de faire réseau. Vous savez que la publicité, ce qui coûte très cher la publicité, un cinquième de l'effort économique du monde est consacré à la publicité. Alors on peut dire c'est pas bien, il faut la supprimer, d'accord, ça c'est point de vue, on va rentrer dans la vision de gens qui condamne très fortement la publicité. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, rien ne se produit, ne se fait, ne se vend dans un marché qui ne passe par la publicité. Sauf si vous voulez rester marginal, comme un mec qui va élever ses chèvres en Camargue ou dans l'Ardèche, ou un dingue qui appartient à une secte dans le recoin du Wyoming. Rien ne se fait sans publicité. Pourquoi? Parce que dans un monde extrêmement complexe et surabondant d'informations, si vous n'avez pas un moyen de vous faire connaître, vous êtes mort. Donc, les publicitaires, ils savent que quand ils font un effort, ou les gens qui vendent quelque chose, ils font un effort gigantesque qui s'appelle l'investissement publicitaire, qui leur bouffe une énorme partie de leurs recettes pour arriver à s'incruster pour que ça atteigne vos cerveaux et ça attire votre attention. La chose formidable, c'est d'avoir inversé la chose et de dire, on va pas essayer d'imposer comme Monsieur Ford un Ford T noir. Le consommateur l'aimera parce qu'on va lui marteler toute la journée, il faut aimer. On va prendre ce que font les gens, on va regarder ce qu'ils font. On va regarder comment ils butinent, comment ils cherchent. Et ça va nous donner l'information qu'il faut, car ça va nous donner, exactement comme dans Amazon quand vous allez acheter un livre, hein, et qu'on a le plaisir de vous mettre à côté les gens qui ont aussi acheté, etc. Vous allez tout simplement décupler les possibilités. Vous allez ouvrir l'existence même d'un marché. C'est-à-dire que Google s'est mis en amont des conditions de possibilité d'un marché. Donc Google vend à des fabricants de produits la possibilité même d'exister sur un marché. C'est ça son modèle. Alors, c'est évidemment comme ça, si vous voulez, que on voit quel est le poids de ces fameux immatériels mous. L'immatériel dur, c'est j'ai un brevet qui me sert à fabriquer, là c'est pas Stark, mais ça pourrait être Stark pour une bouteille de Saint-Georges, l'eau minérale corse. Dans la bouteille, il y a un demi centime de flotte, il y a 2 centimes d'euros de plastique, et il y a 75 centimes d'euros, ou je sais pas combien c'est, j'ai aucune idée, mais c'est de cet ordre-là, au fond, de design de M. Stark. Et c'est vrai pour une paire de choux, c'est vrai pour n'importe quoi. Donc vous voyez bien que ça s'est déplacé sur ces immatériels. C'est des immatériels contenus, dosés, vendus, on a des droits de propriété intellectuelle, c'est parfaitement connu. Bon. Maintenant, votre activité de co-consommateur, de coproduction, le fait que vous informiez en temps réel tout producteur de ce que vous cherchez, ça, c'est totalement différent, c'est immatériel 2. Et immatériel 2, par exemple, pour capter ça, il va falloir que j'offre des services gratuits. Et c'est tout le pas que n'arrive pas à faire l'industrie patrimonialiste. Pour que je consomme de la communication, de l'information, que je consomme des applications, de la musique, etc., il faut qu'on me donne pour quasiment rien ce petit objet qui coûte quelque chose, mais contre l'abonnement, hein, contre un abonnement, qui est au fond un habitus de mes moyens de recherche. Et le fait, quand vous vous mettez en position de capter ce type d'immatériel, je vous dis, vous êtes en plein dans la problématique du capitalisme cognitif. Vous êtes dans Google, vous valez 170 milliards de capitalisation boursière, alors qu'encore une fois, les fabricants de choses matérielles ne vont plus valoir grand-chose. Ça a commencé par General Motors, mais j'attends avec intérêt Airbus, Thomson. Ça a déjà commencé pour les Rafales. Hein. Le Rafale, en dehors des logiciels embarqués, ça ne vaut pas grand-chose. La tôle, on propose même aux Brésiliens de la construire. C'est vous dire que ça ne vaut plus grand-chose. Donc, en réalité, c'est ça l'immatériel 2. C'est-à-dire, et c'est lié à des activités de connaissance, d'apprentissage, de confiance. Hein, les immatériels 2, c'est la confiance, c'est la coopération, c'est la contextualisation, la capacité d'interprétation. C'est exactement ce que disait Stigler ce matin sur, au fond, la construction d'un savoir. C'est le capital intellectuel actif. C'est pas les supports du capital intellectuel. C'est pas les bouquins scolaires, c'est pas votre poli, c'est pas ce que vous allez prendre sur le support du cours, c'est l'opération qui s'opère en vous quand vous suivez un cours et que vous faites le vrai travail de compréhension. C'est comme un ordinateur. Hein, c'est pas l'information qui est contenue dedans, c'est ce que vous en faites. Donc c'est ça immatériel 2. Est-ce que c'est clair?
J'avais un petit point de détail sur que vous disiez que le vivant pouvait être considéré comme mégantropique. Est-ce que vous pourriez définir juste le terme de mégantropique?
Ça c'est logique. Enfin bon, je ne veux pas m'en tirer là-dedans. C'est pas mon domaine absolument totalement machin. Mais ça veut dire que, si vous voulez, les systèmes mécaniques pris dans, en général, l'univers, sauf à très très grande échelle, si on raisonne sur le fait qu'éventuellement les étoiles se reforment et que ça repart pour un tour. Mais en principe, vous avez une déperdition, vous partez de sources d'énergie extrêmement chaudes et vous dégringolez, comme dans les éruptions solaires, hein, petit à petit les soleils s'éteignent, les étoiles s'éteignent. Elles descendent et tout tend vers moins 273 degrés, hein, le zéro dans l'univers. Et de source chaude à source...
Non, c'est pas le zéro, c'est oui. C'est le deuxième loi de thermodynamique qui est que les différences de température ont tendance à s'estomper. Donc c'est pas le zéro, mais c'est que tout va devenir la même température partout.
Entropie.
C'est comme ça qu'il n'y aura pas d'entropie. Ça, c'est la loi de l'augmentation de l'entropie. C'est une question, il faudrait faire un petit tutoriel, parce que c'est technique, c'est compliqué, controversé. Mais moi, je pense que c'est en général mal compris. Mais ce terme de négantropie constate que chez les organismes vivants, François, c'est pas le cas. C'est que les organismes vivants ne meurent pas de cette espèce de mort thermique où tout se réparait. C'est qu'ils continuent d'avoir des différences. Et donc, cette tendance, si on regarde l'organisme vivant en tant que tel, de maintenir des déséquilibres, c'est ça qu'on appelle les négantropies. C'est très discutable, parce qu'en fait, il ne peut faire ça, ce n'est pas l'organisme qui fabrique son entropie négative. En fait, il prélève toujours sur le système, sur le milieu, donc les organismes vivants sont des systèmes ouverts, qui sont toujours branchés sur un flux d'énergie, de matière, de l'extérieur. Donc, c'est une question un peu compliquée. J'espère que ça répond.
Mais sur la mécanique, il faut ajouter que, si vous voulez, c'est pour ça que. Un ordinateur, au fond, le rendement d'un ordinateur, de ce que vous en faites, ou de votre cerveau, n'est pas lié directement, comme dans la mécanique, à la quantité d'énergie que vous cramez, d'énergie fossile. Ça veut dire que le cerveau d'Einstein ne consomme pas plus d'énergie que le cerveau du balayeur du coin. Non, mais ça veut dire que, si vous voulez, les conditions de fonctionnement d'un cerveau vivant sont données exactement comme celles d'un ordinateur, sont données, vous le branchez. Après, il y a un ordinateur dont vous allez faire un usage proche du néant, et un ordinateur sur lequel vous allez pouvoir inventer des trucs formidables. Mais il n'y a pas de rapport direct, alors que le rendement d'une machine, hein, c'est directement lié, sa capacité de transformation de la matière va être liée à la quantité d'énergie qu'elle bouffe. Alors on peut arranger la quantité d'énergie, elles peuvent être de plus en plus économes, mais il n'empêche que si vous roulez à 100 à l'heure, vous consommez plus d'essence, même sur les moteurs les plus performants du monde, que quand vous roulez à 70 à l'heure, etc. Et quand vous changez de vitesse, idem en ville et tout ça. Donc c'est ça l'idée, que quand même là, vous êtes dans des mécanismes qui tentent partiellement, localement, d'échapper à l'entropie, un mécanisme d'entropie. C'est ça.
On met ça de côté pour ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, François? Est-ce que tu veux poser une question?
Seulement une très, très petite question. Est-ce que je peux avoir un microphone?
Microphone.
Vous savez, fait des parallèles entre les systèmes vivants, biologiques, et les systèmes sociaux. Et je trouve qu'on peut faire beaucoup des intéressants, et on va voir encore plus ce qu'on comprend de transférer les connaissances d'un champ à un autre, mais aussi, peut-être c'est trop trivial, mais il y a aussi des différences. Et comment, qu'est-ce que vous croyez, ce sont les plus grandes différences entre les systèmes complexes biologiques et les systèmes complexes sociaux?
Je dirais que le système biologique nous fait approcher un tout petit peu de la complexité sociale, puisqu'il comprend nécessairement. Il n'y a pas de société de non-vivants. Il n'y a pas de société de zombies, il n'y a pas de société de cadavres. Et les sociétés des anges, pour l'instant, on ne les a pas rencontrées, puisqu'on est dans la béatitude. À ce moment-là, on n'est plus dans le mouvement, on n'est plus dans la dynamique, on est dans la fin du temps, etc. Et c'est les béats. Le premier pas avant la sainteté. Toute société, tout système social est nécessairement un système qui assemble des sous-ensembles vivants, à commencer par les individus, les groupes. Mais je suis bien d'accord que je pense que c'est un attracteur, c'est-à-dire que le modèle biologisant ou biologique est intéressant, est important, parce que pour la connaissance, il nous éclaire par rapport au modèle mécanique, mais je pense qu'il y a une irréductibilité, évidemment, du social à la connaissance biologique, parce que je pense que c'est du complexe encore pire, encore beaucoup plus, parce qu'il est réflexif, parce qu'il est historique, parce qu'il est culturel, parce qu'il se sédimente de, non seulement de relations de pouvoir élémentaires, mais de relations de pouvoir complexes, qu'il y a du capital social, enfin, tout ce que tu as dit précédemment. Donc, c'est évident que pour moi, c'est un attracteur, et ça déplace. Ce qui est intéressant, c'est le déplacement qu'il opère dans nos modèles de rationalité, et qui nous amène sur une voie qui peut-être peut nous permettre de mieux appréhender. Mais ça n'est pas le fin du fin. C'est dans ça que je dirais que c'est une étape de la recherche, c'est pas du tout une espèce de nouveau scientiste, et évidemment pas un biologiste. Quand j'emploie la métaphore de la pollinisation des abeilles, je me réfère à la fois à une sphère qui est une sphère matérielle, parce qu'il est très facile de faire comprendre à des gens que ce que font vraiment les abeilles, si l'économie politique s'occupait vraiment de ce que font vraiment les gens, elle ferait la même révolution. C'est pas de produire du miel
ou de la cire, ça on s'en fout, c'est de véritablement polliniser le vivant. Et que c'est ça leur vrai, c'est ça la vraie richesse qu'elles représentent pour non seulement nous, les animaux, l'écosystème. Donc, je pense que, alors là, si on transpose dans le domaine de la biosphère, au domaine de la noosphère, on va voir apparaître la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le même énorme écart entre l'évaluation que l'économie produit jusqu'à présent des gens à leur output marchand commercialisable et à la réalité de ce qu'ils font, à leur utilité, je veux dire à la fois utilité au sens le plus économique et le plus bébête du terme, mais aussi à leur aménité, à la douceur de vivre. C'est-à-dire qu'effectivement un monde sans pollinisation est un monde totalement invivable, et un monde sans pollinisation des eaux est un monde qui n'existe pas. C'est une fiction, précisément, que d'avoir créé l'homo economicus sans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout une métaphore employée au sens sociobiologiste, des sociobiologistes de la sociobiologie qui s'intéressaient au fond à la métaphore de la fourmilière et de la multitude des insectes pour parvenir à penser le complexe du social humain. Là, c'est un autre, c'est plutôt un...
En fait, la sociobiologie, c'est beaucoup aussi un très grand rôle donné à la génétique.
Oui.
Et donc, on peut dire
un déterminisme.
Moi, je suis d'origine dans le sens biologique, mais je m'intéresse aussi au sens social. Et à mon avis, il y a des allers-retours. Parce que quand on commence à développer une pensée intelligente et sociale, ça peut aussi montrer aux biologistes des phénomènes que la biologie classique a tout à fait oublié ou négligé ou mal interprété. Moi, je serais, François, tu vas t'exprimer là-dessus, mais moi, je serais beaucoup plus pour une espèce de change à travers les périodes des disciplines, mais de comparer la réserve.
Malheureusement, le temps presse. Il faudrait peut-être oui. 2 minutes de plus au max, sinon François n'aura pas le temps de.
Est-ce que dans les systèmes complexes, il y a encore de la place pour le quantitatif?
C'est ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire que modéliser, avant de quantifier, il faut catégoriser, il faut schématiser, il faut modéliser. Quantification sans catégorie, ça n'a aucun sens. C'est de la superstition du chiffre. Mais il est clair que ce qui est justement le défi qu'on a, c'est que, de même que nous sommes tous les jours plongés dans un système, dans des systèmes complexes, et nous nous démerdons avec, et démerder avec veut dire que notre cerveau connaît. Utilise des formes de traitement, de raisonnement qui sont non seulement viables, mais qui supposent quelque chose à côté de quoi le calcul de l'ordinateur n'est pas grand-chose. Hein, multitâche, je prends l'exemple toujours que apprendre à lire, ça représente 300 opérations simultanément menées par le cerveau. Vous m'appellerez quand un ordinateur fait 300 tâches en même temps. Ça veut dire que 300 tâches de nature différente, localisées autrement, etc., et coordonnées, ce qui fait d'ailleurs que personne, du point de vue de la pédagogie, ça nous intéresse. La méthode qui tue, par exemple, la créativité, c'est, vous remarquerez qu'il y a des pays nordiques qui ne sont pas si mal placés du point de vue créatif, où on n'emmerde pas les enfants à 6 ans ou 7 ans, qui s'ils ne savent pas lire, c'est la catastrophe, et les parents sont convoqués, et on dit, vous savez, votre enfant, il faut le faire examiner par un psychiatre, parce qu'il y a un sérieux problème. Parce qu'en fait, on sait que personne ne sait comment on arrive à lire. On sait, on voit comment des gens ont des troubles cérébraux et perdent la capacité de lecture alors qu'ils l'avaient. Ça, on le sait. Mais savoir comment ça se fait, on est encore au tout début. Donc il y a plein d'opérations comme ça, formidablement complexes, qu'il est intéressant de modéliser. Pour modéliser, il faut à la fois mesurer, il faut trouver des ressources, donc la quantification est là. Après, sur les techniques de modélisation, le type de mathématiques, le type de formes qu'on utilise, ça va dépendre totalement de la pertinence qu'elles ont par rapport au problème posé. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut probabiliser formidablement. Mais, par exemple, utiliser les calculs de probabilité de Bachelier pour prédire sur le marché des trucs financiers, c'est complètement délirant, et Mandelbrot l'a dit. Cela dit, ça joue, il y a une explication sociale de la raison pour laquelle on a utilisé ces mathématiques-là. Parce qu'avec ces mathématiques probabilistes, si on avait recouru peut-être à d'autres mathématiques, on n'aurait pas accordé des crédits, on aurait trouvé des règles plus jurisprudentielles et probablement plus réglementées, et probablement les traders et les banques auraient fait beaucoup moins de bénéfices. Donc ça a avantagé tout le monde, et ça a accordé des crédits d'ailleurs à beaucoup de gens qui aujourd'hui poussent des hurlements et qui ont été bien contents d'avoir des crédits accordés. Donc,
je vous propose que nous poursuivions à 17h lors de la table ronde, 17h table ronde, prévu initialement, et nous passions directement la parole à François, Tadei. Mais ce qu'on avait décidé, mais ça peut se changer, c'est mettre la pause juste après les deux intervenants, vu qu'on est en retard. Mais si tu préfères, on la fait maintenant. Mais
c'est
toi qui décides.
C'est le chairman qui décide.
Mais c'est avec Gunnar, on s'était dit que c'était mieux, mais si tu décides. C'est parce que certains doivent prendre le train.
Qui sont intéressés par les sciences, ça c'est vrai dans l'ensemble des pays. Et puis, faut arriver à apprendre de nouvelles choses. Pas seulement apprendre, mais il faut aussi apprendre à mettre à jour ces connaissances. Il faut apprendre des choses qu'on n'apprend pas spécifiquement en particulier dans le système éducatif français. C'est la capacité de coopérer, la capacité de communiquer, la capacité d'être créatif, la capacité d'avoir une vision critique sur l'ensemble des choses, que ce soit les marketeurs ou les politiciens ou les... Quand les gens essaient de vous vendre des trucs, il faut que vous ayez un regard critique dessus. Mais que vous ayez un regard critique qui soit un regard critique positif. D'accord ? En France, on est très fort sur la critique négative. Ça, c'est super bien fait en général. Et ce qui est plus intéressant, c'est la critique positive, c'est-à-dire la critique qui permet d'avancer. Ne casse pas et ne prend pas. Donc, on a les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et moi, j'aime bien rajouter d'OIC. Donc, les deux OIC, c'est ceux qui sont au-dessus. La communication, la coopération, la créativité, la collaboration. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 100 à 150 millions d'étudiants dans le monde et que le nombre va doubler dans les 10 à 15 ans qui viennent. D'accord ? Et 150 millions, c'est un nombre qui est un peu grand. Moi, j'ai du mal à compter. Et si on compte par jour, ça veut dire qu'il faut ouvrir une nouvelle université tous les jours pendant 15 ans. Donc, l'UTC, c'est super, d'accord ? Et comment est-ce qu'on ouvre une nouvelle UTC tous les jours pendant 15 ans ? C'est pas complètement évident à l'échelle mondiale. Donc, il y a des vrais enjeux. Si on veut ouvrir une nouvelle université, est-ce qu'on les ouvre exactement comme c'est possible ? Est-ce qu'on a un fait dans la montée de nouvelles ? Donc, c'est la partie des questions sur lesquelles moi, j'essaie de réfléchir en ce moment, et je vous invite à réfléchir pendant la petite heure qui vient. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à changer de paradigme. On a besoin de changer de paradigme économique, écologique, on en a parlé. Alors, pourquoi est-ce que j'ai été amené à travailler sur ce genre de choses alors que je suis bien ça ? Parce qu'on m'a demandé de contribuer à un centre de cénacles intellectuels, de décideurs et de gens qui réfléchissent sur ces questions. Donc, l'un des premiers, c'était celui qui s'appelle France 2025. Et on nous avait posé différentes questions dont j'avais bien aimé, qui s'appelait comment créer des créateurs ? Comment est-ce qu'on peut promouvoir cette créativité et permettre au plus grand nombre de maximiser sa créativité ? Et puis, on m'a demandé de. À ce moment-là, j'ai rencontré les gens de CDE. Ces gens de CDE m'ont demandé d'écrire ce rapport sur la formation des constructeurs de connaissances créatifs et collaboratifs. Comment est-ce qu'on peut résoudre ces challenges dont on parle tout à l'heure ? En fait, les débats sur l'innovation, comme elle n'a pas vraiment réussi à l'être, on s'est dit qu'il faut remonter en amont, c'est-à-dire qu'il faut passer à la question de la créativité dans l'éducation pour avoir des gens qui soient réellement innovants, non seulement pour les activités économiques, mais aussi pour toutes les activités sociales et écologiques qu'on a vu. Alors, encore une fois, comment est-ce que moi je suis arrivé à faire ce genre de choses ? Je remonte encore en arrière dans mon propre parcours. En fait, moi je ne suis pas prof au départ. Donc j'enseigne ce que je veux, à qui je veux, quand je veux, où je veux. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis en fait, j'aime bien enseigner. En tout cas, j'aime bien le contact avec les étudiants. Et donc, au début, j'ai dit aux étudiants, venez prendre un café. Et puis, progressivement, maintenant, j'ai pratiquement j'ai réinventé l'industrie du café, mais donc j'ai ouvert un café. Et puis, donc on a un lieu qui est maintenant fait 400 mètres carrés, donc ça commence à devenir assez grand, même pour un café. Et on a un lieu qui est ouvert aux étudiants qui viennent quand ils veulent pour discuter, soit avec moi, soit surtout entre eux, parce que c'est beaucoup plus intéressant de discuter entre eux. Et on essaie de les aider à faire ce que j'appelle de la science de nuit, donc je vais définir en 30 secondes. Et donc, grosso modo, on dit aux étudiants, vous voulez faire quelque chose d'original, on va vous aider à le faire. D'accord ? Vous êtes né d'une discipline, vous voulez aller vers une autre, vous avez un projet, comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans ce truc-là ? Donc on a commencé en particulier dans le domaine des sciences du vivant. Par exemple, on demande aux étudiants de faire 3 stages dans 3 labos de 3 disciplines différentes. D'accord ? Mais c'était au départ sur les sciences du vivant, maintenant ça s'adapte aux sciences du web, et en fait ça peut s'appliquer à pratiquement toutes les... tout un tas de domaines émergents. Et on a créé aussi un nombre de clubs d'étudiants. Donc en fait, on dit aux étudiants, vous voulez travailler sur un sujet, il y en a peut-être d'autres qui veulent travailler sur le même sujet. Donc on prend un amphi comme ça et on demande quels sont les sujets qui vous intéressent. On les écrit au tableau et puis ensuite on laisse les étudiants s'auto-organiser en fonction des domaines sur lesquels ils veulent travailler. Et puis ils développent des projets sur toute l'année, ils ont des budgets et ils se réunissent régulièrement. Et avec ces budgets, ils peuvent faire les meilleurs experts du monde sur ce sujet-là et ils peuvent arriver à avancer comme ça. Donc ça qu'on arrive à faire, ça. Au début, honnêtement, je servais juste des sachets de thé et les étudiants ont des tickets de métro, parce que c'était ça les moyens qu'on avait initialement. Aujourd'hui, on a un peu plus d'argent, en particulier parce que Mme Bézancourt, que le au moins les jeunes filles doivent connaître, parce que c'est la propriétaire de L'Oréal. Donc c'est grâce à vous, mesdemoiselles, que nous on a un bien ensemble. La coupe est en cours à bien en fait des jeunes. À Normal Sup, où on invite des jeunes de banlieue à découvrir le monde de la recherche, on les invite à visiter les labos, on les invite à faire des stages, on essaie de les orienter vers les choses qui peuvent les intéresser dès le lycée, y compris quand ils viennent de banlieue de visite. Voilà ce qu'on essaie de faire un petit peu. Puis on a un centre de gens qui nous aident au niveau de la recherche aussi. Donc on a Orange qui nous a donné de l'argent pendant une année. Maintenant, nous a permis de créer ce master de sciences du web, où aussi les sciences du web, vous connaissez tous les computer science, d'accord ? Computer science, c'est les sciences qui sont nées autour de l'ordinateur pour permettre de maximiser l'efficacité des ordinateurs. Et bien, Tim Berners-Lee, qui est un des fondateurs du web, a dit qu'il n'y a pas de raison, le web, c'est un objet au moins aussi complexe, voire beaucoup plus que les ordinateurs, et il serait bon d'avoir des sciences du web, c'est-à-dire des sciences qui soient à la fois des sciences de l'ingénieur, mais aussi des sociologues, des gens qui font du droit, de la musique, de la médecine, etc., qui essaient de réfléchir sur l'avenir de leur domaine et comment est-ce que le web change cette interface. Donc on a monté ce master de sciences du web, il y a un centre d'étudiants, des étudiants qui font de l'anthropologie, l'histoire de l'art, au contraire d'informatique, etc. On a une chaire d'AXA. AXA, c'est, vous savez, la boîte d'assurance, et en fait, il s'intéresse au vieillissement. Mais dans la recherche que je fais, je travaille à la fois sur l'innovation et la dégénérescence dans les systèmes biologiques. La dégénérescence et le vieillissement, c'est très lié. On a essayé de convaincre que Facebook nous donne de l'argent pour qu'on travaille sur le vieillissement des bactéries. Et donc, elle nous donne de pas mal d'argent. Et puis, le dernier projet dont je vous parlerai un petit peu à la fin, c'est le projet qu'on appelle Wiser You. Et l'idée, c'est un projet pour essayer de penser, de repenser l'éducation et la façon de faire de la recherche en utilisant le mieux de ce que le web peut offrir et de la mobilisation dont on parlait bien tout à l'heure. Voilà.
Le truc le plus important peut-être, c'est la dernière ligne qui est en rouge, c'est le fait que nous on est assez convaincu que tout seul on peut arriver à rien faire par rapport à ce qu'on est capable de faire quand on est tous ensemble, a fortiori au niveau des idées, puisque l'idée de base c'est qu'en fait personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose, que donc on a à gagner quelque chose si on commence à échanger. Ça c'est un proverbe japonais, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le web. Donc, je vais parler de sciences de jour et de sciences de nuit. Donc, on a parlé de François Jacob tout à l'heure, et il a quand même fait des petites choses qui étaient très intéressantes. Il a parlé aussi de bricolage dans le domaine biologique. Et ce bricolage, il est, je pense, très vrai aussi dans le domaine de l'informatique. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis sa photo là. C'est parce qu'il a parlé de sciences de jour et de sciences de nuit. Donc, la science de jour, c'est la science que vous avez apprise à l'école jusqu'à maintenant. D'accord. C'est la science qui marche. C'est la science, quelque part, assez linéaire, bien de parler italien. Ce qui est plus intéressant, c'est la science de nuit, c'est la science qu'on n'est pas capable de prédire. C'est-à-dire la recherche, c'est toutes les choses qu'on ne sait pas faire. Et moi, j'avoue que la science m'amusait modérément à l'école. Par contre, la recherche, c'est assez passionnant. D'accord. Et la recherche, c'est vrai que cette science de nuit, c'est l'exploration de domaines inconnus. Et ça, c'est un jeu qui mérite un sacré temps. Et moi, je trouve beaucoup plus excitant que tous les jeux auxquels je joue beaucoup avant de faire la recherche. Parce que, pas tout ça pour vous dire, j'ai un certain type de jeu. Mais la recherche est un jeu particulièrement excitant si on peut choisir le jeu auquel on joue et qu'on n'est pas obligé de faire ce que d'autres nous attendent. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une croissance exponentielle au niveau du CRI ? Donc, nous aussi, ça veut dire, ici, ça veut dire exactement le même nom. Donc, nous, ça veut dire centre de recherche interdisciplinaire. Ce qui est à gauche, vous connaissez, c'est un programme assez classique. Ce qui est à droite, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'avoir des cours très divers qui correspondent aux demandes des étudiants. Donc on parle des demandes des étudiants chaque année, puis on essaie de répondre à leurs demandes. On essaie de donner beaucoup de responsabilité et d'autonomie aux étudiants. On leur permet d'accéder à différents labos, différentes disciplines. On a, par exemple, cette année, un professeur visiteur de l'art d'art qui est passé pendant un an auprès des étudiants, mais on a tout un tas de professeurs qui viennent donner des conférences au fur et à mesure. Et puis, on on incite les étudiants à faire des stages à l'étranger beaucoup. Et on essaye non seulement de faire de la recherche, mais aussi de réfléchir aux implications de la recherche. Donc on a une étudiante cette année qui a gagné un prix au MIT parce qu'elle faisait, elle avait travaillé sur la façon dont ses petits copains travaillaient. Donc ses petits copains, c'était des ingénieurs, des médecins, des physiciens, des biologistes qui travaillaient ensemble, ce qui était déjà relativement innovant. Et elle, en tant que sociologue, elle essayait de comprendre les questions d'éthique qu'il y avait lorsque on considère l'ingénierie du vivant de manière moderne, ce qu'on appelle la biologie synthétique. Et si ça vous intéresse, pour ceux d'entre vous qui font de la biologie, je peux vous expliquer un peu plus. Mais grosso modo, la biologie synthétique, c'est du Lego biologique. Donc le Lego, c'est super, vous pouvez démonter et remonter. Donc vous pouvez inventer de nouvelles choses. Donc ça, c'est super en général. Et dans le domaine biologique, ça permet de faire des tonnes de choses, mais ça peut permettre aussi de faire des choses qu'on ne sait pas forcément contrôler. Donc ça pose un certain nombre de problèmes éthiques. Bon, elle, elle s'est posée des questions sur la réflexion éthique de ses petits camarades. Voilà. Ce que je peux vous dire. Alors, maintenant, je vais essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus d'innovation aujourd'hui qu'hier, et peut-être pourquoi est-ce qu'on en aura besoin de plus. Et pour le coup, je vais essayer de faire un retour en arrière sur à la fois des classiques. Ça, c'est Alice au pays des merveilles. Et puis essayer de réfléchir, donner quelques impressions qu'un biologiste peut avoir par rapport à l'accélération du monde dans lequel on est. Alors, Alice, que vous voyez là, elle est, tient la main de la reine de pays rouge. C'est Alice Carole qui a décidé d'aller voter, pas la première. Donc, Alice et la reine courent pendant 10 minutes à fond. Et au bout de 10 minutes, Alice se rend compte qu'elles n'ont pas bougé du pied, etc. Et donc Alice dit, mais c'est bizarre, dans mon pays, quand on court, on avance. Alice, c'est quand même quelqu'un de très rationnel. Et la reine lui dit, non, dans mon pays, c'est très différent. Il faut courir aussi vite que l'on peut pour rester à la même place. Et donc ça, c'est la vision qu'on a. Lewis Carroll vivait dans la société britannique du 19e siècle, en même temps que Darwin, en fait. Et donc les deux vivaient dans une société qui était en plein changement. Et cette société en changement, il y en a un qui a pensé à l'évolution, l'autre qui a pensé à la reine rouge. Et en fait, aujourd'hui, on utilise la reine rouge pour penser l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est un prédateur, si on est une proie qui se met à courir plus vite, eh ben, on n'a pas le choix, il faut qu'on court à soi-même plus vite. Donc, c'est un problème de course aux armements que vous avez. Si l'environnement change, pour vous adapter, vous devez changer. Mais vous-même, vous faites partie de l'environnement des autres. D'accord. Et donc en fait, l'environnement accélère en permanence à cause de ça. Parce que c'est clair comme concept. Et la reine, elle dit un truc intéressant, c'est qu'elle dit que si on veut aller ailleurs, eh ben, il faut courir encore deux fois plus vite. On était déjà à fond. Okay. Donc il faut inventer de nouvelles manières de courir. D'accord. Et donc là, il y a une course aux armements permanente sur la façon dont on court pour s'adapter. Et être capable d'inventer de nouvelles façons de s'adapter, ça veut dire être capable d'inventer de nouvelles façons d'innover, si on reprend la thème d'aujourd'hui. Alors, il se trouve que moi, j'ai fait ma thèse sur ce genre de choses. Pour vous dire qu'on peut faire des expériences et des modèles et des choses relativement scientifiques sur ce genre de trucs. Ici, vous avez des paysages avec des espèces de montres à la Dali au milieu. Et l'idée, c'est que les montres à la Dali, elles représentent l'ensemble des génotypes qui sont possibles dans un espace génétique. Et plus vous montez, plus vous êtes adapté dans ces espaces génétiques. Donc ce qu'il faut, c'est être le plus haut possible. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la question de base, c'est est-ce que ça vaut la peine de muter plus ? Est-ce qu'une bactérie a intérêt à avoir un taux de mutation faible ou un taux de mutation élevé ? D'accord, c'est ça la question qu'on s'est posée au début. Et si la bactérie a un taux de mutation faible, alors elle fait moins de bêtises, parce que quand même 99,99% des mutations sont des mutations délétères. Mais elle ne génère pas les 1 pour 10 millions de mutations favorables. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'à terme, elle va avoir des problèmes, elle ne sera pas capable de pousser la vie. Donc, ce qu'on a étudié, c'est ce qu'on appelle la capacité de faire évoluer la vitesse d'évolution, d'accord, ou l'évolvabilité. En fait. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que en environnement changeant, ce qui est important, c'est d'augmenter son taux de mutation pour augmenter sa capacité à s'adapter. Donc même si la plupart du temps on fait des bêtises, ça vaut la peine d'essayer d'innover. D'accord. Pour peu qu'on ait un système de sélection, ce qui marche. Donc voilà, c'est ça qu'on a étudié scientifiquement, on a fait des modèles théoriques, on a fait de la biologie expérimentale derrière, on a fait ce qu'on appelle de l'évolution expérimentale. Parce qu'on a un avantage de travailler sur des bactéries. Les bactéries, c'est un temps de génération de 20 000 pics. Donc vous pouvez faire beaucoup de générations très rapidement et vous pouvez reproduire des milliers de générations très rapidement. Et donc ce qu'on montre en particulier, c'est que plus l'environnement est stressant, plus il y a besoin d'augmenter sa capacité à s'adapter. D'accord. Bon, je ne vous raconte pas tout ce qu'il y a dans tous ces papiers, mais si ça intéresse quelques biologistes qui sont à ça, on pourra reparler. D'accord.
Et donc, en fait, on est arrivé à une vision bactérielle de la rouge. D'accord. Donc, ce que vous savez, c'est que l'espérance de vie, elle a augmenté. En fait, elle a triplé depuis 200 ans. D'accord. Et en grande partie, c'est parce qu'on a éliminé les pathologies infantiles, d'accord, qui étaient essentiellement dues à des infections, à des bactéries ou à des virus. Donc, ça, c'est grâce à la vaccination d'une part et aux antibiotiques d'autre part. Le problème, et donc, on a réussi à dans la course, on a accéléré notre grâce à l'innovation scientifique. Et cette innovation scientifique, elle nous a permis donc d'arrêter un certain nombre de pathogènes. Le problème, c'est qu'il y a des bactéries qui courent plus vite que nous. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des bactéries qui ont accéléré. Elles ont accéléré parce que nous-mêmes, on avait accéléré. Et donc, elles sont aujourd'hui, elles mutent plus, et elles font aussi des choses qu'on n'imaginait pas au départ, c'est qu'elles sont capables d'échanger de l'information entre espèces pour coopérer. Quand il y a une bactérie qui trouve une résistance à un antibiotique dans une espèce donnée, elle est capable de filer cette résistance à une autre bactérie d'une autre espèce via un système d'échange d'informations qu'on appelle les plasmides. Donc elles n'ont pas encore inventé le TCP/IP, d'accord, mais comme protocole, mais elles ont des protocoles d'échange d'informations qui sont extrêmement puissants et qui leur ont permis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont un peu raffinés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont plus capables d'échanger de l'information qu'hier. Et elles ont amélioré leur capacité à innover, si vous voulez. D'accord ? Il y a d'autres choses qu'elles font que je trouve assez intéressantes. C'est que si vous regardez sur ces plasmides, quelles sont les informations qu'elles échangent ? En fait, ce sont des informations sur comment coopérer. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, ça leur permet de faire ce que je disais tout à l'heure, qu'on appelle la construction en niche. C'est-à-dire que plutôt que de s'adapter à leur environnement, l'environnement pour le rendre favorable à leur intérêt propre. Et donc ça, c'est un autre graphe qui est complètement... C'est des gens qui sont allés chercher ce qu'ils ont appelé des transitions importantes dans l'histoire, donc ils ont sélectionné les points qu'ils ont trouvés intéressants. Vous pouvez refaire un graphe comme ça en choisissant les points que vous préférez. Ils ont commencé par l'apparition de la vie, et ils ont tout mis sur une échelle de l'autre. Vous avez l'apparition de la vie il y a plusieurs milliards d'années, puis l'apparition des premiers eucaryotes, l'apparition des premiers mammifères, l'apparition des ancêtres des humains, l'apparition du langage, l'apparition de l'agriculture, puis la révolution industrielle, les ordinateurs, et puis après vous pourrez rajouter l'iPhone ou Android ou ce que vous voudrez. Vous avez comme ça, ce que vous voyez en fait, c'est que quand même c'est sur une échelle de l'homme. Donc en fait, le temps qu'il y a entre deux de ces transitions a tendance à s'accélérer. Et donc c'est ça la vision, c'est que la reine rouge s'accélère en permanence en fait, depuis l'apparition de la vie. Et donc toutes les innovations technologiques dont on parle ces jours-ci, enfin, c'est lié à ça, mais en fait c'est pas les premières innovations. Et donc il y a des biologistes qui ont travaillé sur ces questions-là, et moi j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur extrêmement important, qui est malheureusement mort aujourd'hui, mais qui avait travaillé sur cette... les transitions majeures de l'éducation. Comment passer de la soupe de l'éducation pas tout sur le c'est la première molécule de première cellule, et de ces premières cellules au premier multicellulaire, et de ces organismes à des sociétés moléculaires, enfin, sociétés cellulaires ou animales, et puis comment est-ce que certaines sociétés animales avaient développé une culture. Et en fait, ce qu'il a expliqué dans ce livre, que vraiment je vous conseille, si vous voulez essayer de comprendre ces transitions, c'est qu'il y avait des choses qui étaient très concernées en fait, chacune de ces transitions, et que c'était associé à des problèmes de coopération de bas niveau qui permettent l'émergence du niveau supérieur. Et que pour arriver à faire ça, il fallait bien tout faire, et arriver à organiser ces choses-là. D'accord ? Par exemple, vous avez différentes cellules et elles coopèrent entre elles pour former le multicellulaire que vous avez. Mais s'il y en a une qui se met à se rebeller, à ce moment-là, ça pose un problème. Et si vous avez une cellule qui se rebelle et qui se multiplie, alors là où elle ne voudrait pas, ça peut devenir un cancer, et ça peut faire par le niveau supérieur. Vous avez en permanence ce type de conflit entre le niveau inférieur et le niveau supérieur. D'accord ? Dans une société humaine, vous avez des conflits entre les individus et le besoin de la société. D'accord ? Et donc, si vous êtes capable de vous organiser, vous êtes des petits poissons, c'est quand même beaucoup mieux que si vous n'êtes pas capable de vous organiser. Le problème, c'est que si le dessin de droite est un peu intéressant, c'est que quelque part, il n'existe pas comme ça. C'est-à-dire que les poissons, ils ne savent pas s'organiser comme ça, en général. Donc en fait, la question c'est pourquoi est-ce que certains systèmes arrivent à s'organiser et pas d'autres. et quelles sont les propriétés minimums qu'il faut pour arriver à passer du diagramme de gauche au diagramme de droite. Donc comment est-ce qu'on fait émerger ça, sachant qu'il n'y a pas Dieu qui dit organisez-vous. Il n'y a pas un niveau supérieur qui vient et qui dit écoutez, à partir de maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. Vous allez vous mettre en ordre et faire ça. Donc comment est-ce que ce genre de choses émergent? Ça fait vraiment partie des programmes de recherche sur lesquels un groupe de gens travaillent. Ils travaillent là-dessus à différents niveaux d'organisation. Tu peux travailler sur comment des molécules s'organisent, comment des cellules s'organisent, comment des animaux s'organisent, comment des humains s'organisent, comment des robots s'organisent. Nous, on travaille sur des trucs hyper simples. On travaille sur les bactéries. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on essaie de travailler sur comment est-ce que les bactéries échangent l'information et comment elles sont capables de coopérer. Et en fait, ce n'est pas du tout trivial d'émettre de l'information, parce qu'en fait, c'est très coûteux d'émettre de l'information. Moi, je vous parle, ça va une fois. D'accord, mais en général, si vous écrivez un mail, ça vous prend du temps. Si vous voulez produire de l'information, ça prend du temps. Donc, quand vous la produisez pour vous, on voit l'intérêt que ça peut avoir. Pourquoi est-ce que vous la produisez pour les autres? Donc, ça, c'est une des questions qui se produit sur le web, mais c'est une question en général. Les bactéries, elles font déjà ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y en a qui dépensent autant d'énergie, qui prennent autant de risques? Parce qu'en fait, c'est très dangereux d'émettre de l'information pour une bactérie, on risque de récupérer un virus. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Et donc on essaie de comprendre ça, et donc une des impressions qu'on a, c'est que comme très souvent elles émettent de l'information sur comment coopérer, on pense que ça peut permettre de stabiliser, je ne sais pas si vous avez fait un peu de théorie des jeux. Oui, non. La théorie des jeux, c'est une théorie qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que la coopération existe. Parce que grosso modo, à court terme, on a toujours intérêt à tricher. C'est bon pour le collectif, qui est les coopérateurs, mais en tant qu'individu, on a toujours intérêt à laisser les autres faire le boulot. Et les bactéries, elles ont le même problème, parce que souvent elles coopèrent. Et elles coopèrent pour changer leur environnement. Par exemple, elles veulent dégrader l'antibiotique que demande l'ami pour arriver à survivre. Mais s'il n'y en a qu'une seule qui dégrade l'antibiotique, ça ne suffit pas. Mais si toutes les autres le font, alors on n'a pas intérêt à le faire. Donc il y a toujours un problème de la différence entre l'intérêt du collectif et l'intérêt de l'individu. Et donc il y a ce qu'on appelle les tricheurs, c'est-à-dire les free riders en économie, qui sont ceux qui ne contribuent pas et qui bénéficient des efforts des autres. Donc ce qu'on peut essayer de montrer, enfin ce qu'on a montré expérimentalement et théoriquement, c'est que grâce aux plasmides qu'elles ont, elles peuvent, s'il y en a une qui veut coopérer et qui possède l'information sur comment coopérer sur le plasmide, elle peut transférer cette information à tous les autres, de façon à ce que tous les autres se mettent à coopérer. D'accord. Donc on peut avoir des épidémies de coopération, parce qu'on transmet une information sur comment coopérer, et on transmet non seulement l'information sur comment coopérer, on transmet aussi l'information sur comment transmettre l'information sur comment coopérer. Comme ça, tout le monde va se mettre à coopérer. Et donc en fait, ça pose des questions qui sont assez générales, qui sont les questions de la coévolution entre la capacité à émettre de l'information, la capacité à recevoir, parce que si on vous émet de l'information sur comment vous manipuler, vous n'avez pas intérêt à la recevoir, cette information. D'accord. Donc, pensez que vous avez intérêt à évoluer la capacité à recevoir, c'est une vraie question. Et puis il y a aussi le contenu du message. Et les bactéries, pour vous donner un exemple, leur capacité, si je prends deux bactéries au hasard et que j'essaie de transmettre une information donnée entre elles, la probabilité varie d'un facteur 100 millions. D'accord. On voit bien qu'il y en a qui ont intérêt à transmettre de l'information et d'autres pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On ne sait pas exactement, mais c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille. Donc, voilà, on essaie de comprendre les similitudes et les différences qu'il y a entre ces différentes transitions et tout ça. Donc, il y a beaucoup de variabilité, c'est ça qu'on essaie de faire. Je ne vais pas détailler ce slide qui est un peu. Ce sur quoi je veux revenir, c'est que les génotypes, donc on sait depuis longtemps, au moins depuis Darwin, que les génotypes sont capables de s'adapter pour survivre dans un environnement donné. Ce qui est en train d'émerger, c'est que les génotypes sont aussi capables d'adapter leur environnement. Donc si les bactéries, par exemple, mais ça peut être, vous voyez la petite plante qui est là, elle a l'air très inoffensive, elle est très jolie comme ça, et elle cause des millions de dollars de dégâts parce qu'elle provoque l'incendie qui est sur la droite. Donc, pendant longtemps, la CIA pensait que c'était le KGB qui l'avait envoyé, parce qu'il y avait une femme bleue dans les plaines du Midwest et ça venait de Sibérie. Et bien, en fait, non, ça n'a pas besoin d'être machiavélique, vu par l'homme, mais ça peut être assez machiavélique, je vous dis. Donc, cette petite graine, d'accord, elle résiste au feu. Donc, ça, c'est vachement avantageux pour elle, parce que quand il y a le feu, elle est la seule à résister. D'accord. Après un incendie, elle prend des mains. Mais non seulement elle résiste au feu, mais la tige et toute la plante sont inflammables. D'accord. Donc en fait, elle déclenche les incendies, okay,
qui peuvent tuer une partie de ces graines, mais moins que les autres. D'accord ? Donc le feu est bon pour personne, parce que ça va tuer une partie, une partie des plantes. Mais c'est pire pour les autres que pour elles-mêmes. D'accord ? Donc si vous dégradez l'environnement pour tous les autres plus que pour vous-même, alors vous avez un avantage. Vous avez dit que c'est assez machiavélique. Vous avez compris. Donc c'est plus machiavélique que le KGB. Donc voilà ce qui se passe dans des systèmes biologiques. Et donc pourquoi est-ce qu'elle arrive à faire ça? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de systèmes où il y a de la guerre chimique aussi entre plantes ou entre bactéries. Et il y a aussi donc des guerres biologiques. Et en fait, ces guerres biologiques, elles sont plus puissantes que les guerres chimiques. Parce que si vous voulez changer l'environnement qui est autour de vous, si vous essayez de couper la forêt, par exemple, un coup de hache, ça va vous prendre un certain temps. Si vous êtes capable de mettre le feu, vous allez pouvoir récupérer une plus grosse partie de la forêt beaucoup plus rapidement. Donc ce qu'il faut, c'est déclencher un processus autocatalytique. Et donc ça, il y a un certain nombre de processus autocatalytiques qui ont été sélectionnés. Et en fait, les processus de transfert d'information, c'est les processus autocatalytiques. Parce que vous avez transféré une information qui va pouvoir amener un nouveau transfert d'information. Et donc les bactéries, elles peuvent des fois manipuler les autres en leur transférant une information qui oblige les autres à faire ce qu'elles veulent, même si c'est pas bon pour elles. Je vous ai donné l'exemple de résister aux antibiotiques, ça c'était bon pour tout le monde, mais il y a des cas où elles tuent les autres bactéries, et entre-temps, elles les transforment en usines à produire des choses qui sont bonnes pour les maîtrises du départ. Donc je veux dire, il y a un certain nombre de gens qui, dans la société humaine aussi, transfèrent des informations pour vous manipuler, ou faire des choses, genre aller à la guerre, qui généralement c'est pas ceux qui disent aller à la guerre qui y vont. D'accord ? Ça marche très bien, ce genre de système. Et les bactéries, elles font ça depuis un certain temps. Ok ? Donc voilà, moi c'est ce sur quoi je travaille au niveau scientifique. Et donc, une des choses qu'on voit quand on essaie d'adapter l'environnement, je vous avais raconté des histoires où on détruisait l'environnement, où on le rendait pire pour tout le monde. Il y a des fois où on construit l'environnement. Ça c'est quand même plus positif comme vision. Et donc ici à gauche, vous avez un barrage qui est construit par un castor. Que les castors, ils aiment bien les lacs, ils n'aiment pas trop les torrents. D'accord. Mais ils n'ont pas toujours des lacs à la portée de la main. Donc ce qu'ils font quand ils n'ont pas de lac, ils construisent un barrage pour transformer le torrent en lac. D'accord. Donc ils construisent l'environnement de façon à le rendre plus adapté, meilleur pour eux et leurs descendants. Et donc leurs petits, ils vont se retrouver au cœur du barrage, très protégés. Ils vont pouvoir se nourrir sans avoir à être à la disposition des prédateurs. Ouais, chez les castors. À droite, évidemment, les humains font ça plus longtemps, ça c'est pas trop. Et puis on transfère un certain nombre de compétences. Donc là, vous avez mon père et sa fille qui transféraient la capacité à monter des chapeaux, des chaussures, des bermudas, etc. Mais derrière eux, vous avez quelque chose qui est plus impressionnant. Vous savez ce que c'est que les derrière?
C'est des fourmis, non?
Une termitière. Donc, vous voyez comment c'est vraiment une termite. D'accord. Et vous voyez la taille de la termitière. Donc assez clairement, les termites, elles sont capables de coopérer à large échelle pour arriver à construire des structures qui leur sont favorables. Et à l'intérieur, elles ont inventé des systèmes qui font qu'il y a comme de la clim à l'intérieur. Donc là, on est dans le désert australien, il fait un peu chaud. Et les larves, elles sont sensibles à la chaleur. Et bien, elles ont réussi à inventer un système dans lequel il y a des courants d'air qui circulent de façon à ce que ça rafraîchisse l'intérieur de la termite. Donc je pense qu'on a des choses à apprendre si on veut développer des visions d'environnement durable et de capacité à nous adapter à un environnement qui devient de plus en plus hostile parce que nous, on l'a réglé. On peut éventuellement s'inspirer d'un certain nombre de ces comportements animaux. Ouais. Une autre chose, j'ai eu l'occasion d'organiser un congrès sur les innovations dans les systèmes biologiques. Et donc j'avais invité les Simon Miller et Kevin Lam, qui sont très intéressant, qui avaient déjà compilé eux-mêmes le travail de plein de gens. Et donc là, vous avez des petits oiseaux qui ont innové au sens où ils se sont mis à boire du lait. Bon, en l'occurrence, la crème qui est sur le dessus des pots de lait. Et donc, c'est là en Angleterre, vous avez des pots de lait devant le milkman de laitier qui débarque avec ses bouteilles le matin. Et les oiseaux, ils ont découvert la manière d'ouvrir ces bouteilles. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'oiseaux qui font ça. On voit les innovations apparaître à un endroit et éventuellement se propager pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui font que ça se propage. Est-ce que c'est l'imitation, est-ce que c'est les systèmes protecteurs, est-ce que c'est... Et l'autre exemple que je vous donne ici qui est intéressant, là vous avez une jeune femelle macaque
dont on a dit qu'elle méritait le prix Nobel des macaques. Et puis moi, je vais vous demander si vous êtes capable de signer le mérite. Donc c'est des macaques qui sont au Japon. Et au Japon, ils aiment beaucoup les animaux, et donc ils les nourrissent. D'accord ? Donc c'était une île sur laquelle il y avait des macaques, et ils leur ont amené d'abord des patates. Donc là, vous avez cette macaque qui mange des patates, et le problème, c'est qu'on leur a livré sur la plage, que assez vite, les patates, elles sont sorties des sacs, et elles sont trouvées dans le sable. Et honnêtement, les patates avec du sable, c'est beaucoup moins bon que les patates sans sable. Et donc, la première question qu'a résolue cette jeune femelle macaque, c'est comment est-ce qu'on se débarrasse du sable ? Je vous laisse inventer votre solution, savoir si vous méritez la première étape du prix Nobel. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'après, on leur a servi du riz et elle a inventé une manière de laver le riz. D'accord. Ce qui commence à être relativement. Pour séparer le riz et le sable, j'ai besoin des ingénieurs. Vous allez sûrement savoir inventer des technologies très sophistiquées pour faire ça, mais vous pouvez le faire avec les technologies disponibles pour un macaque. Donc voilà, vous pouvez venir me donner la réponse après si vous voulez. Si vous voulez votre prix Nobel de macaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est deux fois le même individu qui a fait ces découvertes. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'ils ont regardé la sociologie de la propagation de ces innovations dans la tribu de macaque. Et les premières qui ont copié cette jeune fille, cette jeune femelle, ce sont d'autres jeunes femelles. Et les derniers à avoir adopté cette technologie innovante, ce sont les vieux mâles. Donc, évidemment, les sociétés humaines fonctionnent beaucoup mieux que ça, comme c'est bien ça. Mais je vous laisse tirer vos propres conclusions. Une autre chose qui a été faite, qui a été assez intéressante par Simon Miller, c'est qu'il a essayé de regarder dans la littérature humanienne toutes les innovations qui avaient été répertoriées, et il a essayé de comprendre quelles étaient les espèces qui innovaient le plus. Donc il y a des espèces qui innovent nettement plus que d'autres. Et essayer de trouver à quoi ça corrélait, et en l'occurrence, ça corrélait avec la taille du cerveau. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'autre chose qui est assez intéressante sur la taille du cerveau, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que la taille du cerveau l'avait augmentée dans plein de genres différents. Pas uniquement chez les ancêtres de l'homme, qui sont intéressés par la taille du cerveau. Mais en fait, il y a plein d'espèces dans lesquelles la taille du cerveau a augmenté. D'accord. Et ce qui est assez vrai, c'est que la reine rouge, dont je parlais tout à l'heure sur la vitesse entre un prédateur et une proie, si le prédateur est vachement plus malin que les proies, elles sont mal barrées. Il y a une forte pression de sélection pour que les proies deviennent un peu plus malignes. Et inversement. Donc là aussi, vous avez une ligne rouge sur les capacités cognitives et probablement sur les capacités d'innovation. Bon, ça, c'est un autre exemple que j'ai pris pour Yann, parce que je sais qu'il aime les abeilles. Mais là, en l'occurrence, c'est les abeilles, ça se termine mal pour elles. Donc vous avez en haut à gauche un oiseau, qu'on appelle en anglais le hummingbird. Donc c'est celui qui guide vers le miel, les humains. D'accord. Alors, cet oiseau, donc, il aime bien le miel et tout ça. Et le problème, c'est que le matin, il arrive à y arriver, à surprendre les abeilles, mais des fois, les abeilles sont plus costauds que lui et mieux organisées, donc il a du mal à se nourrir autant qu'il voudrait. Et donc, en fait, il a un très beau champ. D'accord. Et donc, il a une information. Il sait où est la ruche. Mais il ne sait pas forcément attraper le miel. Et donc en fait, il va dans un arbre et il voit passer un humain et il se met à changer de champ. Donc il a un champ spécifique quand il voit un humain. Et puis cet humain s'approche parce que c'est une belle chance. Et puis à ce moment-là, l'oiseau change d'arbre. D'accord, il passe dans l'arbre suivant. D'accord. Et de l'arbre suivant, l'humain continue à suivre. Et puis comme ça, d'arbre en arbre, ils peuvent faire un kilomètre. Donc ça commence à faire une bonne distance. Il faut un humain qui soit motivé ou mélomane. Au bout d'un moment, l'oiseau change de champ. Donc l'humain, un peu interpellé, se rapproche un peu plus, et à ce moment-là, l'humain voit les abeilles. Et comme l'humain aussi est un gros roi, il essaye de se faire les abeilles pour arriver à récupérer le miel. Et en général, il en laisse un petit peu pour l'oiseau, soit par hasard, soit parce qu'il est généreux et qu'il a compris qu'il fallait récompenser cet oiseau. D'ailleurs, il y a des légendes africaines qui disent que si on récompense pas l'oiseau, la prochaine fois il va chanter et il va vous amener chez le lion. Donc vous avez intérêt à lui donner sa part. Enfin, là, c'est terminé. D'accord. Donc, ce qui est intéressant dans cette analogie-là, c'est que c'est une symbiose, et les symbioses, vous êtes habitués. Mais c'est une symbiose intéressante, c'est une symbiose où il y a un transfert d'informations entre la nourriture.
C'est quoi une symbiose ?
Une symbiose, c'est deux organismes vivants qui vivent ensemble et qui bénéficient l'un de l'autre.
qui s'exploitent mutuellement dans les deux visions, mais ça ne sera pas la même. Donc, par exemple, dans l'exemple que Yann donnait, les abeilles, elles aident les fleurs à se reproduire et en échange, elles sont nourries. D'accord ? Donc, tu as un certain nombre de symbioses comme ça qui existent dans les écosystèmes avec des interactions positives entre deux organismes. D'accord ? Ça peut se faire au détriment d'une troisième, c'est le cas de l'escalade.
Non.
Si vous éteignez la lumière, ça sera peut-être mieux. Je sais pas.
Elle est là.
C'est pas la lumière, ça c'est le vidéoprojecteur, je crois.
Bon, grosso modo, c'est un bouquin.
Celle-là pour soi.
Henri Plotkin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que. Ouais, ça va. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le bouquin s'appelle Les machines de Darwin ou la nature de la connaissance. Il essaye de comparer quatre formes de connaissances différentes. Lui, il considère que les bactéries, elles ont une information génétique qui leur donne une connaissance sur comment dégrader l'antibiotique. D'accord ? Et il considère que les individus peuvent avoir des connaissances qu'ils acquièrent grâce à leur cerveau. Que les individus sociaux peuvent avoir des connaissances qu'ils acquièrent par les autres. Donc, il y a une culture qui se développe. Et il dit qu'il y a un quatrième type de connaissances, c'est les connaissances scientifiques. D'accord ? Les connaissances scientifiques, c'est celles que les humains, et en particulier qui sont ici, essaient de travailler. Mais que pour lui, il y a des caractéristiques très communes entre ces différentes formes de connaissances. Elles sont toutes issues de processus qu'il considère darwinien, c'est-à-dire des processus dans lesquels il y a de la variabilité, et puis de la sélection et de l'amplification. D'accord ? Donc vous générez un certain nombre d'idées, et puis vous travaillez sur ces différentes idées. Vous sélectionnez celle qui vous paraît la plus intéressante, vous l'amplifiez, et puis vous la transmettez. Et comme ça, vous avez la science qui se développe, mais les processus qui marchent sur les bactéries fonctionnent un peu de la même manière. Donc si on prend l'analogie de Henri Plotkin sur les liens entre les connaissances au niveau génétique, individuel, social ou scientifique, eh bien on peut se demander s'il se passe la même chose au niveau des innovations. En fait. Parce que l'innovation, c'est quoi ? C'est une nouvelle connaissance qui est adaptée à une situation de vie. Le problème, c'est un peu ce qu'on a dit ce matin, c'est que les connaissances, elles ne sont pas forcément, les informations, elles ne sont pas toutes de grande qualité. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est développer des systèmes de sélection des informations les plus pertinentes. Donc plus vous augmentez les flux d'informations, plus vous avez des informations de tout niveau qui se propagent. Donc plus les informations intéressantes, comme il peut y avoir n'importe quoi. Et donc il y a des épidémies de suicide, vous connaissez peut-être le jeu du foulard. Enfin, c'est un jeu sur Internet où les gamins s'apprennent les uns les autres comment s'étrangler. Parce qu'après, on plane. C'est le genre de truc, c'est super, ça circule très bien sur le web. D'accord. Donc, tout ce qui passe sur le web n'est évidemment pas forcément le web. Mais c'est pas nouveau, en fait. Et à chaque fois qu'on augmente la transmission d'informations, on augmente les épidémies de toutes sortes, les bonnes choses comme les mauvaises choses. D'accord. On sait, par exemple, que les épidémies de virus sont plus fortes dans les endroits où il y a plus de densité de population. Donc, il y avait des épidémies très fortes, par exemple, dans la Rome antique. Dans la Rome antique, l'espérance de vie, c'était de 15 ans. Parce qu'il y avait des tonnes d'épidémies, parce qu'il y avait une forte densité de population. Donc, si vous avez une forte densité d'interaction, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui habitent au même endroit, parce qu'il y avait une forte flux d'informations, vous pouvez faire créer des épidémies. Voilà. Donc c'est comme les langues des hommes. Il y a le meilleur et le pire. Bon, je vais passer sur un nombre de choses. Donc il y a plein de transitions. Il y a l'apparition de l'imprimerie, il y a l'apparition du langage. Et l'apparition de la science, ça c'est un graphe qui vous montre que le nombre de publications scientifiques croît exponentiellement. C'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus de publications tous les 100 ans. D'accord ? Donc il y a 1 million fois plus qu'il y a 300 ans. Donc si vous voulez essayer de tout lire, ça je vais pouvoir revenir là-dessus pour vous expliquer pourquoi les scientifiques sont conservateurs. Pour vous expliquer dans les questions. Ça vous connaissez tous, c'est la croissance, la loi de Moore, la croissance des progrès informatiques. Ça c'est Garry Kasparov qui se tient la tête parce qu'il a perdu les échecs. Ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que ce n'est pas les emplois vis-à-vis des Chinois sur lesquels il faut se poser des questions, parce que les Chinois aussi ont le droit de travailler, c'est les robots. D'accord. Parce que ce que disait The Economist quand Kasparov a perdu contre un ordinateur, c'est si votre métier ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de métier. Et bien aujourd'hui, il y a des robots qui font de plus en plus de métiers, y compris des métiers de scientifiques. Donc il y a un nombre de choses qu'ils ne font pas, mais les robots font de plus en plus de choses. Donc, essayez de faire des choses que les robots savent pas bien autrement. Préparez-vous à changer de métier. La globalisation, vous savez tous. Le Web 2, vous connaissez probablement.
santé et l'éducation. Ça, c'est un, déjà au 19e, vous avez un professeur qui enseigne aux plus anciens élèves, qui enseigne aux plus jeunes, etc. Et ça marchait très bien. Après. Vous pouvez revenir après sur pourquoi est-ce que ce genre de système s'est arrêté, pourquoi est-ce qu'on en a plus besoin aujourd'hui, encore qu'au 19e siècle. Ça, c'est science 2.0. Aujourd'hui, il y a une possibilité de faire de la recherche de manière collaborative, qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus intéressante que ce qui se passait jusque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus réservé à quelques professeurs, à quelques laboratoires, mais que ça s'ouvre à l'ensemble de la communauté intellectuelle qui a envie de contribuer, et donc en particulier les étudiants, voire les lycéens. Donc, IGEM, c'est la compétition WebMT dont je vous parlais, c'est une compétition de génie. C'est Engineered Genetic Machines. Ça fait des open wetware, il y a des open software et tout ça. Et là, il y avait un numéro qui était un peu dans Nature, qui racontait comment les mathématiciens n'arrivaient pas à résoudre un problème, qu'un mathématicien, le meilleur de son domaine, n'arrivait pas à résoudre un problème qu'il trouvait particulièrement ardu. Et au bout d'un moment, il l'a mis en ligne et il a demandé à la communauté de l'aider. Et en quelques mois, le problème a été résolu. Donc ça, c'est la bugie synthétique. Ça, c'est nos étudiants en France, là, d'autres en Chine, et tout. Donc on fait interagir nos étudiants ensemble. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Web 3 qui est en train d'apparaître. Le Web 3, je pense qu'il y aura encore plus de feedback entre l'information et l'action. Ce qui est bien, c'est que le Web 3 n'existe pas, donc tout le monde l'invente à sa manière. Mais moi, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est le couplage entre information et action. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est dans la tendance longue que je vous ai montré depuis l'apparition de l'action. On a toujours plus de feedback entre l'information et l'action. Il y a une action qui permet à l'information de se répliquer, et une information qui permet à l'action de se produire. D'accord. Et donc maintenant, vous avez de plus en plus de liens entre information et action. Par des robots, des ordinateurs, donc il se passe vraiment de choses qui sont intéressantes. Voilà, donc il y a ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, et à mon avis, il faut rajouter la coopération avec les types d'outils. Je pense qu'un des points importants, c'est d'encourager et de protéger les gens créatifs. Ça, dans le système français, on ne sait pas toujours très bien faire. Ça, c'est pas toujours évident. Ce qu'il faut, c'est créer des lieux dans lesquels on a le droit d'être créatif et on n'a pas ce genre de requis. C'est-à-dire, ça n'a jamais été fait, donc on passe. Mais c'est, on peut néanmoins pas imposer à tout le monde d'être créatif. Et donc, il faut dire, soyez créatif vraiment pour que tout le monde le fasse. Donc, il faut arriver à inventer une culture de la créativité et de respect des individus et de leurs différences. Donc moi, les leçons de ce que j'essaie de vous présenter sur la créativité, la science et l'éducation, c'est, j'ai essayé de les résumer là. Et donc, pour moi, les questions, c'est comment est-ce que...
Donc comment ça va se passer? C'est qui l'amène à la gare?
Les éducateurs de demain vont permettre de développer et d'intégrer à la fois les outils qui sont aujourd'hui, mais surtout être capable d'inventer des nouveaux. Parce qu'on a un vrai problème, c'est que la plupart des outils qui sont utilisés aujourd'hui, ils ont été développés pour...
Mais alors, il faut le commander. Non, c'est il faut qu'il prenne. Moi, je parle.
Quasiment jamais.
Non,
ils sont totalement adaptés pour l'éducation, mais ils ne sont pas conçus pour l'éducation.
Comment?
Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'inventer des technologies pour l'éducation et l'architecture. Et pour arriver à développer ce que j'appelle.
Sincèrement, je crois. C'est difficile.
Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord commencer à former la génération qui sera capable d'inventer ça. Parce que honnêtement, je pense que ce n'est pas les gens assis en bas là qui vont être capables de le faire.
Je me fais des soucis.
Nous, ce qu'on peut faire au mieux, c'est vous donner les moyens.
Je vais en parler.
Donc,
le train après, je vais très souvent à Paris, c'est 18h30, c'est bien ce qui me semble. Oui, non, 18h30, 17h30, il ne faut pas compter 18h30. Ou si les. Non, peut-être, c'est un tour d'hier.
Donc, il faut.
C'est bien ce qui me semble. Ok. Je lui ai dit, ça arrête.
Dans lequel on a pas seulement une nouvelle éducation, une nouvelle science, mais aussi un nouveau campus. Et arriver à avoir une ville campus, c'est à mon avis extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le droit aux conférences du MIT. Mais si je vous propose d'aller au MIT, vous allez probablement y aller. D'accord. Donc pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur le campus du MIT en plus des conférences du MIT. Donc essayez de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a sur les bons campus? Qu'est-ce que vous voudriez pour votre campus à vous? Qu'est-ce que vous pourriez inventer pour que n'importe qui, n'importe où puisse avoir accès à ce genre de choses? D'accord. Donc ça, c'est la partie des choses sur lesquelles on essaie de réfléchir. Donc du coup, on va juste essayer d'inventer le futur de singe. Et on a organisé déjà deux, enfin, une première école d'été, on organise une nouvelle l'été prochain. Donc, le petit lac que vous voyez, c'est l'endroit où on fait ça. C'est à Pékin. On a organisé ce qu'on appelle une co-répétition. D'accord ? Une co-répétition, c'est une compétition et une coopération. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a des étudiants dans, ici, dans des tonnes d'autres universités dans le monde, qui peuvent créer une équipe en disant « Ah ouais, ça m'intéresse ces histoires-là, moi aussi j'ai envie de contribuer à ma manière, et on a envie de faire ça. » Donc ils contribuent individuellement et collectivement, et ils participent à une co-répétition, c'est-à-dire qu'ils coopèrent localement, et ils font la compétition avec les autres équipes. Mais ils peuvent aussi regarder ce qui se passe sur le wiki des autres équipes pour contribuer éventuellement à améliorer ce que font les autres et à avancer comme ça collectivement. Parce que le but, ce n'est pas de courir le plus vite, le but, c'est d'arriver à construire quelque chose où chacun construit une sorte de briques élémentaires. Et ensuite, on prend toutes ces briques élémentaires et on les assemble pour essayer de bâtir le futur de l'université. Voilà, c'est une partie des
François, si tu peux des questions, je m'arrête. Pensais
c'est ma dernière slide. Voilà,
est-ce du temps?
Oui, mais je viens. Allez.
Dans les universités. Pourquoi tu encore pas. Non, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. On peut faire la session.
Pour les transformer.
Dans 5 minutes de discussion, il y a un appel d'air pour faire.
Cyberspace.
On va se couler, mais.
Ce n'était pas un bon
Il faut tellement d'aller de psychiatrie.
Plus positif pour créativité.
Je suis pas sûr d'avoir compris.
Parce que should I ask in English?
Yes.
My problem is, I mean, there is so little support of creativity in the existing education system where you have normal face-to-face contacts in big rooms like this. So would you not? Why do you also have a laboratory where you try to further develop?
Yeah, that's what I presented initially. We have these 400 square meters where the students can come and do what they want.
Okay.
So we have a creative place. The thing is, I can host, you know, tens of students, maybe hundreds of students, not millions of students. Okay. So that's the problem.
Yeah.
So that's one point. And the second point is, if you cannot win a game, change the rules of the game, play another game. Okay. So the idea is that by using the web, you know, if you're in a very classical university, donc si on est dans un système, si vous êtes dans, pas ici, je suis sûr que c'est très bien ici, mais si vous êtes dans un système un peu trop fermé et que vous n'avez pas la chance d'avoir des profs aussi créatifs que Yann pour avoir le droit de faire ce que vous voulez, ce qui doit être le cas de temps en temps, au moins de certains étudiants en France, comment est-ce que vous pouvez vous échapper? Comment est-ce que vous pouvez créer des nouveaux degrés de liberté? Ben, je pense que vous savez tous que sur le web, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule chose, c'est que si vous voulez aujourd'hui faire quelque chose d'intéressant sur le web, le problème, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui a envie de faire quelque chose d'intéressant. Si vous allez sur Facebook, si vous voulez faire une fête, c'est très facile. Mais si vous voulez faire quelque chose d'intéressant et d'innovant, ce n'est pas forcément évident. Donc ce qu'on veut faire, en fait, c'est un peu comme Facebook, et c'est, on a failli appeler ça IT-book. Donc c'est faire un réseau qui est basé sur le réseau des idées. Donc vous avez tous votre propre... imaginez le monde des idées. Dans ce monde des idées, il y a plein d'idées très différentes, il y a des disciplines différentes, il y a des centres d'intérêt différents. Et le problème, c'est d'arriver à savoir où vous êtes dans ce monde des idées. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont près de vous dans le monde des idées avec qui vous voudriez discuter? Et donc c'est ça l'idée, c'est d'arriver à mettre en contact les gens qui sont proches dans le monde des idées. Et qu'une fois qu'on a mis ensemble les gens qui sont proches dans le monde des idées, est-ce qu'on peut aussi utiliser des informations de géolocalisation sur votre téléphone portable, sur votre adresse IP, pour dire, ah mais tiens, en fait, à Compiègne, il y a vachement de gens intéressants qui travaillent, qui s'intéressent à l'innovation, ou qui s'intéressent à quelque chose de très particulier. Et comment est-ce que vous faites pour les identifier? Donc peut-être qu'il y a des gens à Compiègne, peut-être qu'il n'y en a pas à Compiègne, peut-être qu'il y en a à Paris, et à ce moment-là, comment vous faites? Parce que Paris, c'est grand, hein. Donc vous pouvez prendre un ticket de train, mais ça ne suffit pas, il faut savoir qui aller rencontrer. Donc si on a des informations qui permettent de visualiser où vous êtes positionné dans l'espace des idées et où vous êtes positionné dans l'espace géographique, alors on peut calculer les distances et on peut mettre en contact des gens, et moi ce que j'appelle des ID mates. Parce qu'il y a plein de sites, vous connaissez Mythique, etc. Il y a plein de sites de rencontres. Mais le but, c'est pas de faire des sites de rencontres pour aller faire des partouzes. Le but, c'est de faire des sites de rencontres pour échanger des idées. Faire des partouzes intellectuels.
Bonjour, j'ai deux questions. La première, c'est le mot qui revient plus souvent dans votre exposé, c'est l'information. Et vous envoyez de la gros quand il s'agit d'information génétique et d'information que vous communiquez dans votre exposé, savoir la signification. Ma question, c'est ça ne pose pas de problème. Là, de passer comme ça, enfin, d'un mot, d'employer le même mot, et l'autre, c'est sur l'innovation, création. Est-ce que vous auriez. Je sais pas que c'est des questions compliquées. Hein, c'est la différence entre innover et créer. Si je fais ma conférence plus j'innove, suis-je pour autant créatif Ça rejoint un peu ce que vous dites à l'instant, hein, entre les échanges, voilà, comment passer de la partouze à la partouze intellectuelle.
Donc, je pense que sur l'innovation, sur l'information, en fait, on a eu un club sur ce que c'était l'information. Et c'était intéressant parce qu'on avait des physiciens, des philosophes, des biologistes, des généticiens, des neurobiologistes, des informaticiens, etc. Et évidemment, chacun avait sa propre définition. Néanmoins, il y a, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est les informations qui amènent à des actions, qui amènent à des informations, à reproduire l'information de départ. À ce moment-là, il y a un couplage possible. Et ce couplage permet une évolution. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Et je pense qu'une partie de quand j'utilise le mot information, j'essaie de voir tout ce lien. Maintenant, le mot information, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'en disait Socrate. Socrate, il était déjà assez contre les bouquins. Parce que Socrate considérait qu'il ne suffisait pas de posséder un bouquin pour avoir vraiment la connaissance correspondante. Et donc je pense que quand tu cherches une information sur Google, tu n'as pas forcément la connaissance qui t'est renvoyée. Et ça a été bien expliqué ce matin, il y a ce côté d'individuation, il faut que tu interagisses pour que tu l'appropries vraiment. Ça, je pense que c'est vrai. Et en fait, ce que disait Socrate déjà, c'est que pour passer de l'information à la connaissance, ce qu'il faut, c'est des interactions. Et alors, tu peux avoir différents types d'interactions. Tu peux avoir des interactions avec les autres, tu peux avoir des interactions avec la nature, tu peux avoir des interactions entre informations. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et la question que moi, je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut inventer une méthode socratique digitale ou numérique qui permet d'offrir au plus grand nombre cette possibilité de passer de l'information à la connaissance. Donc on a des outils pour acquérir des informations sur le web, pas pour acquérir des connaissances sur le web. Donc qu'est-ce qu'il faudrait inventer demain pour pouvoir passer de l'information à la connaissance, soit en interagissant sur le web, soit en interagissant dans la vie réelle, parce que je suis d'accord avec tous ceux d'entre vous qui pensent qu'il se passe quelque chose d'assez magique quand deux personnes se parlent directement, qui peuvent être d'un autre ordre. Et c'est aussi parce qu'il y a de la communication non-verbale. Tu transmets aussi d'autres types d'informations au-delà du débit solaire, par exemple. Donc ça, je pense que c'est important. Après, la différence entre innovation, créativité, ou même au sein de la créativité, en fait, il y a différentes notions. Tu peux être, est-ce qu'à partir de quand est-ce qu'un individu est créatif? Est-ce que c'est de la créativité locale ou c'est de la créativité globale? D'accord. Donc la créativité locale, c'est un individu fait quelque chose qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant. Donc quelque part, il innove, il crée du nouveau. D'accord. Mais c'est pas, on va pas lui donner le prix Nobel parce que tout d'un coup, il a réinventé le fil à couper de l'or. Néanmoins, c'est bien parce que c'est déjà une première étape. Parce que si tu sais réinventer le fil à couper de l'or, c'est que quelque part, tu as su faire preuve d'innovation et de créativité, au moins au niveau local. Par contre, évidemment, et cette innovation et cette créativité au niveau local sont nécessaires pour la créativité au niveau global. Si tu veux être le premier sur la planète à faire quelque chose de nouveau, il faut qu'au moins, de temps en temps, tu fasses des choses nouvelles pour toi. D'accord. Et donc, ce qu'il faut, c'est que tu apprennes à créer. D'accord.
Et donc l'éducation, elle ne peut pas forcément te donner les moyens de devenir le prix Nobel demain matin, mais elle peut te donner les moyens de faire des innovations au fur et à mesure des problèmes que tu rencontres et d'apprendre à les résoudre de manière créative. D'accord ? Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et ça, c'est à la portée de tout le monde et c'est utile pour tout le monde. Et donc tout le monde peut devenir créatif. Et tout le monde peut contribuer à un processus de création collective. D'accord ? Parce qu'en plus, le mot créativité en France, c'est comme le mot versatile. Si vous voyez ce que c'est le mot versatile, c'est un espèce de gros mot qui est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Hein. D'accord ? En anglais, versatile, c'est un des mots les plus positifs qui puissent exister. D'accord ? Et c'est évidemment la même origine latine qui voulait dire tourner. D'accord ? Donc ce qui compte, en fait, c'est le regard qu'on porte sur l'enfant lorsqu'il se développe. D'accord ? Et cette capacité à s'intéresser à plein de choses et à s'ouvrir et à interagir avec les autres, c'est ça qu'il faut encourager. Et c'est ça qui manque beaucoup. Je veux dire, ma petite sœur est là, donc je lui parlais de son neveu. D'accord ? Quand il avait 6 ans, il arrive à l'école et sa maîtresse me dit « Il est vachement bien votre fils, mais il pose des questions. » Et ben, je peux vous dire, depuis ce jour-là, moi je questionne de l'éducation nationale.
Oui ?
À ce propos, qu'est-ce que vous pensez des systèmes éducatifs non conventionnels comme il peut y avoir en Allemagne et partout en France, Steiner, etc.
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de modèles éducatifs alternatifs qui existent. Si on regarde bien l'histoire de la plupart de ceux qui sont offerts, ils ont quasiment un siècle. Donc, je pense qu'il y a un léger problème, même dans ces systèmes-là. D'accord. Ils sont plus ouverts que d'autres, c'est très bien. Mais il faudrait peut-être penser à innover, y compris dans les systèmes alternatifs. Et même pour parler avec moi de ce qui existe en Scandinavie, mais en Scandinavie, ce qu'ils ont fait en Finlande, par exemple, c'est qu'ils ont décentralisé complètement leur système éducatif. Et ils ont donné beaucoup plus d'autonomie au niveau local, et du niveau local, ils ont donné l'autonomie aux profs, et les profs ont donné l'autonomie aux étudiants, et aux jeunes élèves. Et comme ça, ils ont propagé un système. Au Danemark, ils ont donné des degrés de liberté en développant des programmes interdisciplinaires dans les universités. Et puis, ces étudiants-là, c'est devenu des futurs parents, des futurs profs, des futurs décideurs. Et en une génération, ils ont réussi à avoir un système qui est beaucoup plus ouvert qu'avant. Mais moi, j'avais un ami danois qui est en terminale avec moi, et il était juste passé une année sabbatique avec nous. Et déjà, c'était assez extraordinaire comme concept. Un lycéen qui vient passer une année sabbatique. Mais un jour, il a dit au prof, « Non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. » Et alors là, on a tous regardé en disant, « Mais c'est quoi ce zombie ?» Et donc, voilà, ils ont une culture du questionnement, en fait, dans les pays scandinaves. Et je pense que ça, c'est la culture essentielle. C'est la capacité à se remettre en question. Mais pour accepter la capacité de questionnement, il faut que le prof accepte de se faire questionner. Et donc, il faut que le prof se réinvente aujourd'hui. Et à mon avis, le prof, en général, connaît moins bien les nouvelles technologies que nous. D'accord ? En tout cas, la génération qui nous suit. Par contre, il sait comment utiliser ces technologies pour développer un regard critique dessus. D'accord ? Il sait comment est-ce qu'on passe de l'information à la connaissance. Il sait que la première réponse de Google, ce n'est pas forcément la vérité absolue. Et ça, il peut donner ce genre d'information. D'accord. Pour donner un autre exemple de la nièce de ma soeur, donc ma fille, du haut de ses 7 ans, elle adore les baleines. D'accord. Très bien. Elle va à la bibliothèque, elle prend tous les livres sur les baleines. Très bien. Elle lit ses livres sur les baleines et elle vient me voir, elle dit « Papa, j'en voudrais plus. » On va sur le web, elle trouve plein de choses sur les baleines, dont une page de Wikipédia pour enfants, qui s'appelle Wikidia. Et elle regarde cette page et elle me dit « Ah mais papa, ils disent des bêtises, ils disent que les baleines ça mange que du plancton, c'est pas vrai, il y en a qui mangent des trucs beaucoup plus grossins, il y en a qui mangent des cris, il y en a qui mangent des otaries, etc. » Je dis « Bah t'as raison. » Et donc elle a édité sa première page de dictionnaire à 7 ans. Et à 8 ans, elle a créé sa première page. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'un prof peut enseigner ça. D'accord. Mais ça suppose qu'il se remette en question, quelque part, et qu'il accepte qu'on le questionne, qu'il dise « Moi je ne sais pas, mais moi je sais. » Dire Socrate, s'il avait une chose, qu'il savait qu'il ne savait pas. Et moi, en tant que chercheur, je sais exactement la même chose que lui. Mais le prof, il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas admettre qu'il ne sait pas. Parce que son savoir, son pouvoir dépend de son savoir. Donc s'il avoue son ignorance, il pense qu'il va perdre son pouvoir. Or, son pouvoir, il n'est pas là. Son pouvoir, il est d'être un adulte responsable qui peut accompagner les enfants. Et sur les autoroutes de l'information, il faut apprendre aux enfants à traverser l'âme. Et moi, je peux vous dire, ce qu'on a fait avec les étudiants qui sont sur cette diapo, c'est que, à part qu'on a fait plein de choses intéressantes, mais une des choses qui était vraiment intéressante, c'était d'essayer de faire le bilan de ce qu'ils savaient
sur comment utiliser les technologies du web pour leur éducation et leur recherche. Et bien, je peux vous dire qu'en fait, ils n'en savaient pas grand-chose au début. Et qu'au bout d'une semaine, ils ont exploré tout le web, ils ont commencé à réfléchir à quels outils ils pourraient utiliser et quels outils n'existaient pas mais qu'ils pourraient inventer. Et ensuite, ils ont travaillé pendant 3 mois d'affilée. Si vous voyez un amphi qui est plein, c'est parce qu'il y a des étudiants qui ont offert la nuit un cours à d'autres étudiants sur comment on utilise le web pour devenir plus malin. D'accord ? Et pour s'en servir de manière intelligente. Pas juste pour télécharger de la musique, mais pour essayer de trouver les informations pertinentes pour les projets de recherche qu'ils étaient en train de développer. D'accord ? Donc ça, c'est des étudiants qui se sont pris en main eux-mêmes. Nous, on leur a juste dit « allez-y ». Et grosso modo, ils ont fait ça. Et moi, j'ai parlé avec eux un peu en Chine, et en fait, je suis parti. Et ça s'est produit dans les normes suivies. Donc là, je les ai revus à Noël, et ils ont vachement avancé. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de... Je pense que... On peut évidemment essayer de repenser l'éducation pour les enfants et commencer par là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé par là, comme aujourd'hui MIT et les Media Lab. Mais ce qui me semble intéressant, quand on parle avec des étudiants, c'est que vous êtes quand même beaucoup plus autonome que les enfants. Donc vous pouvez inventer les outils dont vous allez avoir besoin pour développer vos propres connaissances. Et à mesure que vous développerez mieux vos connaissances, vous développerez des outils qui sont aussi possibles pour les autres. Et c'est cette la cross-pollinisation dont parlait Yann jusque-là. D'accord. Mais je pense que les étudiants, vous avez un rôle qui est, à mon avis, essentiel. De ce point de vue-là, parce que vous savez, un, comment utiliser les outils du web mieux que les autres, et vous savez aussi ce que c'est que la connaissance. D'accord. Alors qu'en moyenne, la génération qui vous suit, elle ne sait pas ce que c'est que la connaissance, et la génération qui vous précède, elle ne sait pas ce que c'est que le web. D'accord. Je pense que votre génération a un rôle particulier.
En fait, je
pense que... moi, j'ai envie de... pose une question justement dans ce va et vient entre sciences sociales et puis sciences biologiques. Alors, il a le schème darwinien qu'on connaît, variation, sélection. Et il me semble qu'il a une analogie qui peut être critique, c'est pas exact, etc. Mais ça ressemble pas mal au système. En tout cas, la vision que certains économistes se font de l'économie, c'est-à-dire de l'économie de marché, du capitalisme, justement, ces variations, et puis sélection, et puis le capitalisme, c'est que le capital sera constitué de formes d'investissement un peu comme les gènes qui ont pu prolétérer le plus. Certes, on peut toujours trouver des différences, je ne veux pas du tout dire que l'analogie est exacte, mais. Conservatoirement, technologiquement, il me semble qu'il y a un réel, une parenté réelle. Donc, ma question maintenant, si on a fait ça, c'est que moi je suis. J'avais réussi à oublier, mais Ben m'a rappelé notre situation dramatique de passager sur le Titanic. On ne sait pas où on va, mais on a lieu de penser qu'on ne prend pas. Et donc, mais il n'y a pas de capital. Et ça, moi je pense que c'est en grande partie, c'est ce que Bernard Stiegler a dit ce matin, parce que le mécanisme d'économie de marché, de variation et de sélection après, mais en fait, sur le moment où ils fonctionnent, ils sont aveugles vis-à-vis des finalités. La finalité, on ne le voit qu'après. Ne sont là que ceux qui ont eu des propriétés qu'il fallait pour qu'ils survivent à l'effet naturel, mais justement, cette manière de déjouer le vitalisme, de déjouer le finalisme, etc. C'est donc ce mécanisme qui donne, mais après tout seulement, ces résultats. Et moi, je pense que cette caractéristique-là est partagée justement par le mécanisme du capitalisme. C'est après. Le problème que je vois, c'est que si on se remet à ce mécanisme-là qui est aveugle, quand la situation devient globale, avec les crises financières, la monétisation de l'économie, s'il y avait tout l'ensemble de petites populations, on pourrait dire, oui, les pauvres qui ont fait le mauvais choix, on passe à la trappe, tant pis. Mais quand il y a un seul,
si tu laisses, je vais essayer de répondre. Je pense que ce que dit Plotkin dans son bouquin, machines de la lumière et la nature de la connaissance. C'est très brièvement, tout est pour rien. Je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que la quatrième de ces formes de connaissance est une forme de la science. Et la science, elle peut permettre de faire des choses qui sont assez intéressantes, elle permet de faire des choses où on n'apprend pas uniquement du passé, parce que tous les autres apprennent essentiellement du passé, mais on peut se projeter dans l'avenir. Donc on a pu prédire qu'on serait se poser sur la Lune alors qu'on n'avait jamais fait avant. Ça, ça fait partie des capacités que la science a su développer. Et donc on sait par exemple que le changement climatique est mal barré. Parce qu'on a des prédictions scientifiques, on est capable de s'en rendre compte. Et parce qu'on est capable de se rendre compte de ce genre de conséquences à long terme, alors on peut changer les règles du jeu tout de suite pour éviter d'essayer, pour éviter de changer la trajectoire du Titanic, pour reprendre l'analogie. Et donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Et d'une part, et d'autre part, on est capable de changer les règles du jeu. C'est la discussion qu'on avait en aparté. Et les règles du jeu, en fait, elles sont elles-mêmes les produits d'une évolution. Et elles sont les produits d'une évolution culturelle et politique et sociale. Et donc, de même qu'on vote des lois au niveau local, on peut très bien imaginer des lois au niveau global qui font qu'on respecte un certain nombre de fonctionnements de façon à ce qu'on prenne notre futur commun en main, de façon à essayer d'inventer un avenir où le développement durable est une réalité et pas juste une incantation politique.
Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est comment tu peux même imaginer, si on reste avec ce mécanisme d'économie de marché, plus ou moins capitaliste, ça c'est précisément le mécanisme qui est intrinsèquement aveugle. C'est ce que disait Stegler ce matin. Ce mécanisme n'est pas responsable. Pratiquement par ailleurs, en tant que
Stiglitz ce matin, ce que disait Stiglitz ce matin, c'est que le capitalisme avait su se réguler au niveau national à différents moments parce qu'il avait su créer les mécanismes de régulation nécessaires pour que ça fonctionne. Donc je pense que si un jour on avait des gouvernements en moyenne aussi éclairés que les gouvernements scandinaves, la Scandinavie, c'est un régime qui est capitaliste au niveau économique, mais qui est une social-démocratie qui sait tourner, et qui sait respecter l'environnement, qui sait aider au développement, etc. Et qui sait rentrer dans la société de la connaissance. Donc moi, honnêtement, je pense que je ne suis pas compétent au niveau économique, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins dans la salle et certainement sur la planète. Et à mon avis, il y a moyen d'inventer des systèmes de régulation tels que la vision de long terme est possible. Parce qu'elle a existé et elle n'a pas nécessairement.
Mais tout va dans le sens inverse. Non, que ce soit Thatcher, Sarkozy, tout ça. Ton optimisme, tu ne le comprends pas.
D'accord, mais ça, c'est ton problème à toi. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de discuter avec les étudiants. C'est pour ça qu'on est là. Premièrement. Deuxièmement, Sarkozy et Thatcher, ils ont été élus. D'accord. Et ce qu'il faut, c'est en élire d'autres. Et pour en élire d'autres, il faut former de nouveaux citoyens. Et donc, on revient à des problèmes d'éducation. Si tu sais éduquer les gens avec un esprit critique, ils n'achèteront pas les premières sornettes que leur rendra le premier politicien. Voilà. Maintenant, je dois prendre les questions des étudiants. C'est...
Alors là, en guise d'étudiant, c'est un peu raté, puisque c'est Charles venu. Mais bon, c'est pas moi qui régule ça, c'est Chuck.
Je voudrais intervenir un peu dans l'idée de la discussion générale. Je ne sais pas si on est rentré dedans.
Non, bon, alors.
Et en même temps, je vais agir.
Je suis désolé, je suis obligé de faire un point d'ordre parce qu'apparemment personne ne veut le faire. Non, mais c'est un point d'ordre justement par rapport à la parole des étudiants et quand est-ce qu'on parle ou pas, parce qu'il faut bien décider. Donc, il y avait un plan que je vous soumets, hein, qui était le plan de faire une pause maintenant, de faire un quart d'heure de pause et de recommencer vraiment avec une table ronde discussion, où là, il n'y aurait pas de main speaker, ça serait tout le monde qui pourrait poser des questions à tout le monde. Donc ça, c'est le plan initial. Maintenant, on a dérivé au niveau de l'horaire, donc il faut faire un choix, ici et maintenant. On peut essayer de le faire collectivement, je ne sais pas. Ou se dire, ça, c'était du jeu, on peut innover, que ce soit innovation biologique ou sociale, je m'en fous. Et donc, on décide de ne pas faire cette pause et de continuer, là, et on peut faire discuter des étudiants, des profs, etc. Ou alors, on décide de s'arrêter maintenant, de faire une pause, puisqu'il y a en plus de quoi boire et manger dehors, et on reprend de faire une table ronde. Donc, moi, je propose d'être complètement populiste, à savoir de faire un vote. Qui est pour la pause et la table ronde après ? Alors, voilà, je fais un dictat, 1, 2, 3, 10, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire 10, 20, 30, 40. Qui est pour continuer sur la lancée maintenant ? J'ai l'impression qu'il y a un peu moins sur la lancée, mais... Non ? Vous voulez qu'on compte ? Non, mais je ne sais pas, si vous voulez qu'on compte, on recommence.
Oh non, ça se décide, ça se voit à vue d'œil.
Donc, ça se voit à vue d'œil que c'est plutôt faire une pause ?
Oui.
Oui.
Bon, ouais.
Voilà. Okay. Donc du coup, on dispose d'un quart d'heure, s'il vous plaît, pour pas que tout le monde parte.